J'étais à cette époque-là citoyen d'un pays organisé et suralimenté. Et je tombais tout à coup en pleine comédie, ou en pleine farce, enfin bref, en pleine guerre. Moi qui savais par expérience que la musique ne nourrit pas son homme, j'appris qu'elle pouvait fort bien nourrir son soldat. C'est pourquoi je pris mon violoncelle en bandoulière, me mis à jouer un air entraînant pour la troupe et pour le général. Lui soufflait dans un basson de telle façon que rien ne prête à confusion. Tant il est vrai qu'un général fait la guerre avec des instruments graves.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Eh bien, nous allons être en direct du Salon du Livre de Merlieu et je donne tout de suite la parole à Philippe et Léo.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Alors, pour une fois, on est dans les terres humides ou le pays de la betterave, pratiquement, où il pleut un jour sur deux. Quoique non, il n'a pas encore plu, mais ça va venir. Donc on est au Salon du Livre à Merlieu. C'est une réunion annuelle pratiquement, ça fait 9 ans je crois que ça dure. Ce qui est même plus. Mais pourquoi vous faites ça là? Donc j'ai Léo, là, un digne membre du groupe Kropotkin, qui, je suis vraiment désolé de vous le dire ici, mais vous n'allez pas vous en rendre compte sans la frite.
Oui, tu as parlé des betteraves, mais il y a également la frite. On n'est pas que le pays de la betterave. On a aussi des super patates, paraît-il, les meilleures du département. Voilà, donc tous les ans, on organise depuis bien plus de 9 ans maintenant le Salon du Livre anarchiste. Il se trouve que c'est le village du livre de Merlieu tous les ans qui est organisé. Et donc, il y a un village off pour faire découvrir en fait les idées anarchistes, notamment ici en milieu rural, hein, c'est un tout petit village, il y a 250 habitants, et donc le but c'est d'amener les gens à se questionner sur le monde dans lequel on vit, pourquoi pas le remettre en question évidemment, hein, on a des petites idées derrière la tête, et donc voilà, tous les ans on fait venir des auteurs, des éditeurs, des organisations diverses et variées, des ateliers, ce genre de choses. Est-ce qu'on présente le programme ?
Oui, on va présenter le programme. Alors, le programme, déjà, il a commencé hier. Hein. Je suis désolé. Oui. Ah, bah oui, c'est les ondes qui doivent arriver doucement sur
notre pauvre public qui ne peut que nous écouter derrière son poste, mais on a aussi un public présent.
Ouais. Bon, là, vous voyez que nous sommes nombreux dans la gaieté, dans la joie. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, c'est organisé par des stands, il y a donc des stands, il y a des conférences, il y a de la musique, et il y a largement de quoi manger.
C'est ça.
Ça fait des bases plutôt sympathiques.
Normalement, voilà, on veut bien faire la révolution, mais il faut quand même que ce soit joyeux, il ne faut pas que ça soit triste. Hein. On ne va pas convaincre les gens si c'est, Si c'est triste.
Donc on va peut-être commencer par les organisations qui sont présentes.
Effectivement, donc vous avez très naturellement la Fédération anarchiste, hein, puisque c'est organisé par le groupe Kropotkine de la Fédération anarchiste. Vous avez également la librairie Publico, Radio Libertaire, je pense que vous en avez entendu parler. Nous avons les espérantistes libertaires également, l'Entraide qui est un espace local autogéré. Vous avez également le planning familial. J'en profite à ce propos pour signaler que c'était hier, mais il le fait également aujourd'hui ici, la journée de défense des droits à l'avortement. Voilà, il m'avait demandé d'en toucher un petit mot à la radio, ce qui est fait. Nous avons la Ligue des droits de l'homme, l'Étoile Noire, Nous Toutes 02, le collectif Stop Rockwool, donc on vous en reparlera un petit peu plus longuement puisqu'il y a un débat qui y est consacré. C'est un collectif qui se bat contre l'implantation d'une usine de laine de roche dans le département qui est assez mortifère à plein de niveaux. Voilà, je ne vais pas trop vous divulgâcher le débat qui va suivre. Vous aurez l'occasion d'en entendre parler. On a également l'association Fier et Queer de Saint-Quentin. On a l'IWW d'Amiens. On a les amis de chez Renard qui viennent présenter leur journal La Gueule Ouverte, ainsi que ils font également un atelier. On en reparlera peut-être tout à l'heure, un atelier de gravure sur déchets. Et vous aurez également des petits interludes par la Furibarde, qui est une chorale féministe et révolutionnaire.
Mmh. Moi, j'aimerais bien que tu me parles d'un élément, là, ça s'appelle l'Étoile Noire.
Oui.
Ça serait bien, parce que c'est quelque chose qui est quand même très, très local et assez important.
Alors, effectivement, c'est local. C'est une librairie donc anarchiste. Bon, vous ne trouverez pas que des livres anarchistes, évidemment. Il y a plein de livres sur les mouvements ouvriers, la contestation, le syndicalisme, le féminisme, l'écologie, etc. Donc on a ouvert cette librairie il y a 8 ans maintenant, quelque chose
8
comme
ans
ça.
Déjà
7 ou 8 ans, ouais, ça passe vite. Hein. Voilà, c'est tenu par des militants, c'est au 5 rue Saint-Jean à Laon, donc on est dans la préfecture du département, c'est quelque chose qui est entièrement autogéré par le groupe Kropotkine. C'est ouvert tous les jours de 13h à 19h, sauf le dimanche, puisqu'il faut évidemment aller
à la messe.
À la messe, merci. Les jours où on ne va pas voter, évidemment.
Non, mais il faut dire que c'est quand même un lieu qui se trouve dans la rue principale.
Voilà, c'est
et en qui est vraiment ouvert à tout public.
C'est ça. Et vous allez y trouver non seulement évidemment des livres, on a une bibliothèque sociale parce que les livres c'est pas forcément abordable pour tout le monde, donc tous les livres que vous trouverez en librairie sont également disponibles à la bibliothèque sociale. Voilà, l'adhésion est gratuite évidemment, vous pouvez emprunter, avoir votre petite carte de bibliothèque, emprunter les livres, tout ça, ça a été classé, d'ailleurs bien classé, on remercie Ghislaine pour son classement notamment. Et dans cette librairie, on organise une à deux fois par mois des rencontres avec des auteurs, des éditeurs, parfois du théâtre, on a des concerts, des ateliers.
C'est un lieu de vie quand même.
C'est un lieu de vie. Il n'y a pas d'habitants à proprement parler. Ça reste un lieu militant et un lieu culturel, mais qui vit beaucoup, oui.
Et est-ce que tu pourrais nous parler de l'Entraide ?
Oui. Alors l'Entraide, c'est une...
Donc il y a des relations entre les deux quand même.
Il y a des relations, on est en bon voisinage, puisque tu parlais de la rue principale, effectivement, l'Entraide se trouve dans la... Alors j'allais dire la même rue, pas tout à fait exactement, c'est la rue Châtelaine, mais on est vraiment à 50 mètres environ de l'Étoile Noire. Et donc c'est un espace autogéré qui fait à la fois coopérative alimentaire, espace culturel, et j'oublie toujours le troisième... Bon, ça me reviendra. Non, le public, quelqu'un pour me souffler. Coopérative alimentaire, je dis, espace culturel, et j'oublie toujours le troisième. Ah, la cantine, bien sûr, évidemment. Et il y a une cantine autogérée également.
Bien sûr, alors j'ai mangé à la cantine une fois, c'est bien. Hein. Non, parce que c'est un choix... qui est quand même pour moi important, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est militant qu'on doit manger des sandwichs chez SNCF.
Exactement.
D'ailleurs, ça passe aussi par le plaisir de manger, le plaisir de se rencontrer autour d'une bonne table, c'est quand même important.
Oui,
c'est pour ça que je le signalais.
On parlait de plaisir tout à l'heure, vous avez remarqué que Philippe a quelque chose avec la nourriture, mais effectivement, on y mange bien, et le but du jeu aussi, c'est ça, c'est de... de montrer qu'on peut se grouper collectivement pour faire des achats à la fois moins chers, plus locaux et ainsi de suite. Enfin voilà, on considère dans notre militantisme qu'il faut montrer qu'il y a des alternatives en actes possibles, que c'est pas, on n'est pas simplement dans l'incantation en disant oh bah ça c'est pas bien, on est contre ci, on est contre ça. Bah non, on est également
pour.
Voilà, pour, on est porteur de projets, comme on dit maintenant, en tout cas d'alternatives possibles, de dire bah si on se met ensemble, on peut faire comme ci, on peut faire comme ça, on n'a pas forcément besoin de tous les intermédiaires qui existent dans le milieu de la grande distribution.
Donc si on passait un peu aux éditeurs qui sont présents sur le salon.
Oui, bien sûr. Donc cette année, alors je vais évidemment en oublier, mais je vais essayer.
C'est pas grave, ils sont dans les tentes en train de les mettre, ils n'entendent pas.
Voilà.
C'est ça,
ils sont
bien.
En train de terminer leur installation, donc ils nous entendront pas, vous leur direz pas, on compte sur vous, chers auditeurs. Donc, sous le chapiteau, on a monté un grand chapiteau qu'on a emprunté. D'ailleurs, on les remercie ici à la compagnie Isis, qui sont une compagnie de cirque du coin et qui nous ont prêté un chapiteau. C'est très gentil à eux. Et donc, dans ce grand chapiteau, vous trouverez une petite maison d'édition qui s'appelle les Éditions du Monde Libertaire.
Je ne vois pas pourquoi il dit une petite maison d'édition. Moi,
Philippe vous en parlera.
Non, ça me vexe totalement. Une grande maison d'édition, faut pas abuser.
C'était le but avec beaucoup de livres et encore beaucoup à venir. Voilà, une édition qui se veut la plus populaire possible. Et vous avez également donc les éditions Libertaires, les éditions Top Strinquier. Nous avons pour la première fois cette année un ami qui est venu avec un infokiosque. J'ai entendu dire qu'il avait passé plusieurs nuits à tout imprimer, etc. Nous avons le journal Le Point d'Amiens, point P-O-I-N-G, hein, je tiens à préciser. Les éditions Ressouvenance, les éditions Les Étacs, Les Imposteurs Éditions, Le Cordiste en Colère. Et
d'autres qui sont en train d'arriver et qui ne sont pas sur le document parce qu'ils sont arrivés après le tirage du document.
Voilà, et bien évidemment, on salue également les maisons d'édition qui malheureusement n'ont pas pu venir pour un impair ou quoi que ce soit, mais on a beaucoup de livres de chez Libertalia, de L'Échappée, de chez Nada, etc., qui sont des maisons d'édition amies. Voilà, il se trouve que Merlieu, c'est quand même pas toujours facile et voilà, les week-ends, il y en a qu'un par semaine malheureusement. Donc on pense à eux même s'ils ne sont pas physiquement présents avec nous.
Mais leurs bouquins sont là de toute façon.
Leurs bouquins sont là.
Parce qu'on a quand même la librairie Publico.
Évidemment, il y a la librairie Publico qui est au 145 rue Amelot à Paris et qui, comme Radio Libertaire, s'est exporté à Merlieu.
Alors, on a d'autres personnes aussi.
Oui, on a un pôle auteur, effectivement. On a Karim Piriou qui tient une chaîne sur YouTube qui s'appelle Politicon, que je ne saurais trop vous recommander. Voilà, c'est vraiment de la vulgarisation aux grandes théories, aux grandes idées politiques. Il y a pas mal de sciences sociales. Il a sorti d'ailleurs un bouquin éponyme qui s'appelle Politicon et qui est très bien, que je vous encourage à lire, vraiment à acheter. C'est un très bon livre. On a également Arnaud Zwerk, dont on reparlera puisqu'il anime la première conférence de la journée. On a Eric Louis qui est dans le public. Voilà, il y aura également Didier Denynx, que les habitués du Village du Livre connaissent. On aura Sylvain Boulouk, j'ai déjà vu Thierry Maricourt. On aura Nicolas Eprendre.
Qui arrive en vélo.
Qui arrive à vélo. Ah, vélo.
Ah, vélo, ouais. Il arrive à vélo. Depuis la gare, hein, quand même.
Oui. Sinon, il serait parti vraiment très tôt. Donc, j'en étais où ? Nicolas Eprendre. On aura Jean-Louis Mohan-Paul également. Frédéric Von Leuven, j'espère que je le dis bien. Ah, ouf. Tancred Ramonet et d'autres.
Et d'autres. Donc, voilà, ça, c'est pour les stands qui vont rester toute la journée. Mais à côté de ça, il y a aussi des conférences et des animations de discussion.
Voilà.
Oui, commencer très tôt d'ailleurs, c'est à 10h30.
C'est ça.
Et alors, quel est le thème ?
Alors, il n'y a pas un thème à proprement parler qui se dégage. Le but du jeu, c'est, comme d'habitude, en fait, l'éducation populaire. Hein, avec le groupe Kropotkin, je vous en parlais tout à l'heure, on organise des rencontres avec des auteurs, des éditeurs, ce genre de choses. On organise également tous les ans des universités populaires, hein, où on fait un cycle de conférences, où là, par contre, effectivement, il y a un thème conducteur, un fil rouge. Voilà, on a déjà fait sur le féminisme, sur les luttes pour les droits au travail. On avait fait sur les différents types de démocratie, etc. Et donc, le Village du Livre, le but du jeu, c'était pas uniquement qu'il y ait des gens avec leur stand, des auteurs, des éditeurs, de façon un petit peu statique, mais qui est de l'animation. Et donc, on a organisé cette année, que je dise pas de bêtises, 6 conférences autour de thèmes divers et variés. On a essayé de prendre des thèmes à la fois des thèmes locaux, des thèmes environnementaux, des choses un petit peu plus nationales, voire internationales. Le but du jeu, c'est d'avoir de la diversité. Hein, on est, comme je disais tout à l'heure, en milieu rural. Le but du jeu, c'est que les gens puissent avoir des informations, puissent venir débattre, échanger sur un nombre de sujets le plus large possible. Est-ce que je vous fais la liste ?
Bah, on va peut-être commencer à 10h30. C'est quoi 10h30 ouais. Alors ?
Donc tout à l'heure, à 10h30, effectivement, on recevra Arnaud Zwerk. Je vous en ai parlé un petit peu, donc qui est le maire de Courmel, donc la petite commune à côté de Soissons, qui résiste depuis plusieurs années maintenant, aux côtés du groupe Kropotkine, à l'implantation de l'usine de laine de roche Rockwool. Voilà, il viendra nous faire un petit peu un point sur cette lutte, puisque dans la nouvelle, ils se sont enfin fait refuser leur permis de construire. Enfin voilà, c'est la grosse lutte locale environnementale. Je ne veux pas trop en dire, histoire que vous ayez un petit peu des informations que vous ne connaissiez pas forcément tout à l'heure. Mais c'est notre grosse lutte dans l'Aisne actuellement.
Ensuite, ce sera donc suivi de 12h à 13h15 d'un débat sur le conflit israélo-palestinien.
Voilà, c'est pour ça qu'on a fait venir quelqu'un, parce que nous, on n'y connaît vraiment rien.
Et puis, c'est pas facile actuellement de s'y retrouver là-dedans.
C'est très difficile de s'y retrouver actuellement, et même par le passé, ce sont des choses de toute façon qui sont toujours à tiroir, très 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 complexes, qu'il faut absolument se garder d'aborder de façon frontale et binaire, en disant « il y a les gentils, il y a les méchants », enfin ce genre de choses. On verra que c'est toujours plus nuancé que ça, il y a des histoires, des intérêts parfois divergents, parfois convergents. C'est souvent beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait croire. Donc Jean-Louis Mouhampol viendra nous en parler. Il a écrit un livre récemment qui sera évidemment en vente ici. Et donc il viendra nous donner un point de vue. Hein. C'est un point de vue, une analyse de sa part. Et on invite évidemment tout le monde à écouter le plus de points de vue différents pour essayer de se forger une opinion, hein, si vous y arrivez, parce que c'est vrai qu'il y a des choses plus complexes que d'autres, et cette situation particulièrement l'est extrêmement.
Oui, d'ailleurs, on peut noter qu'aux éditions du Monde Libertaire est paru un livre il y a très peu de temps, Israël-Palestine, un conflit sans fin, et là, c'est une vue d'un pacifiste. C'est-à-dire que ce n'est pas une vue nationaliste, il y a les bons, les méchants, ou plus modéré, bien entendu, il y a des bons qui pourraient être des méchants et des méchants qui pourraient être des bons. Non, là, c'est une vue pacifiste, c'est-à-dire c'est une vue de respect de l'être humain et contre la guerre, quelles que soient les raisons. Donc voilà, il sera en vente, bien sûr, au stand voilà. Israël-Palestine. Donc ensuite, on continuera avec comment grandir avec des parents en souffrance psychique.
Voilà, alors, avec Frédéric von Leven, qui est psychiatre et qui a écrit ce livre qui s'appelle comme ça d'ailleurs, Grandir avec des parents en souffrance psychique, si je ne dis pas de bêtises.
On est contrôlé de l'intérieur, là, il faut faire attention.
Attention, l'auteur...
Et pas à distance.
Non, l'auteur est dans le public, donc je vais faire très attention à ce que je dis.
Alors, tais-toi, ça sera plus moins dangereux.
Oui, c'est vrai, ça m'évitera de dire des conneries.
On passe tout de suite au suivant, et là, on peut y aller. Il est en vélo, il n'a pas de vélo nucléaire.
Non, effectivement, on peut même faire des petites blagues. Je pense que vous reconnaîtrez peut-être sa voix. Elle est assez connue sur Radio Libertaire. Une voix douce et suave, c'est notre ami Nicolas Eprendre qui viendra vous parler d'un bouquin sorti dans une grande maison d'édition, très grande maison d'édition.
Les éditions du Monde Libertaire en vente dans cette salle.
Qui viendra nous parler du livre écrit par le réseau Macno qui s'appelle La pieuvre nucléaire, puisque vous savez qu'aujourd'hui, notamment avec les différents conflits autour du monde, on nous ressort des arguments nucléaires qu'on pensait qu'on pensait enterrer, malheureusement, voilà, ça revient régulièrement. Aujourd'hui, on nous vante les mérites du tout nucléaire, comme quoi ça serait une énergie non polluante, etc., etc. Enfin voilà, donc Nicolas viendra nous en parler avec un point de vue le plus éclairé possible. On est sur quelqu'un qui a vraiment à la fois fait beaucoup de recherches et en même temps est entouré de toute une équipe. Je rappelle que la Fédération anarchiste fait partie de la coordination antinucléaire et donc il y a pas qui compte plus de 50 organisations. Voilà, le but du jeu, c'est aussi d'informer les gens, parce qu'on parlait tout à l'heure de sujets complexes avec Israël-Palestine. Ben oui, typiquement, le nucléaire, c'est compliqué. C'est compliqué à la fois de comprendre comment ça fonctionne, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut nous déposséder de la capacité de choisir. Et malgré tout, ben nous, on mise sur l'intelligence des gens et on pense que même si ce sont des sujets compliqués, collectivement, on peut à la fois les comprendre, se les approprier et avoir un avis, avoir une opinion. On est capable de réfléchir et de se dire, ben voilà, quel mode de société on veut. Est-ce que ce type d'énergie est compatible avec la société qu'on souhaite? Bon, spoiler, non, hein, en l'occurrence. Ouais. Il ne viendra pas vous dire que l'énergie nucléaire est compatible avec une société libertaire.
Ah, mais tu sais, les Verts ont bien dit que c'était une énergie propre.
Ils en ont dit des conneries.
Ah ben oui, c'est assez extraordinaire. Parce que moi, je me rappelle quand même les années 70, Nogent ou ce genre de lieu, où les écolos, ils étaient en opposition. Nogent, ça a coûté la vie d'une personne, ça a couru dans tous les sens. Là, il n'y avait pas de question, on était bien contre le nucléaire, clair et net. Et pas simplement sur les dangers techniques, mais aussi sur les dangers politiques, c'est-à-dire la centralisation à outrance du pouvoir par rapport à ce genre de produits.
Également. Là, à cette époque-là, l'interdépendance avec l'armement également.
Bien sûr. Et à cette époque-là, c'était bien, tous les écolos se retrouvaient en même temps en train de courir dans la plaine. Hein.
Mais les écologistes sont toujours contre le nucléaire. Les partis écologistes qui se disent écologistes ont tendance à retourner leur veste, hein, verte d'un côté, marron de l'autre. Mais, mais non, les écologistes sont toujours contre le nucléaire.
Ah ouais, on peut toujours parler de ça, c'est vrai. Alors ensuite, un moment d'histoire quand même avec Sylvain Boulouk.
Oui, qui viendra nous parler de l'épisode... J'allais dire bien connu, mais de la pas forcément tant que ça, effectivement, de la Grange aux Belles. C'est un épisode qui mérite régulièrement qu'on en parle, puisque l'histoire, on ne naît pas avec. Hein. Il faut sans cesse relire ou écouter. C'est vrai que des fois, c'est, pour certains publics, c'est plus évident d'écouter des chroniques radiophoniques ou des débats, des conférences là-dessus. Donc, il viendra nous parler un petit peu de la Grange aux Belles. Il est historien, hein, Sylvain, et il a fait un travail de recherche là-dessus. Donc, il viendra nous raconter un petit peu cette histoire de l'époque où les communistes flinguaient les anarchistes.
Je me souviens très bien d'une époque où on est allé coller un nouveau nom à une station de métro et qu'on a appelé la Grange aux Belles, parce que c'était sur le lieu de la Grange aux Belles, qui a disparu d'ailleurs. Mais on a posé une plaque et on a collé le métro pour dire qu'il devrait s'appeler autrement. Mais c'est des mouvements d'histoire qu'on a tendance à vouloir oublier, oui. Malheureusement. Et ensuite, le parrain.
Ben oui, pour finir, le parrain.
Le parrain.
oui, le groupe Kropotkine a la chance d'avoir deux parrains. On a Jacques Tardy, qui nous a fait l'amabilité de nous faire plusieurs dessins, plusieurs designs, notamment celui du groupe Kropotkine, de l'Étoile Noire. Il est venu plusieurs fois au Salon du Livre. Et notre deuxième parrain, qui est malheureusement décédé il y a pas très longtemps, c'était Michel Ragon. Michel Ragon, vous en avez sûrement entendu parler, un grand écrivain de la littérature prolétarienne, qui a écrit notamment La mémoire des vaincus, hein, son best-seller. Ah. Voilà, c'est formidable. Si
oui,
vous l'avez pas lu.
Oui, mais qui a un très beau cycle sur la Vendée aussi, qui est magnifique.
Oui, il a écrit, Les
mouchoirs rouges
de Soleil, de Cholet également. Il a écrit des très très belles choses. Il y a eu, sur Radio Libertaire, il n'y a pas si longtemps que ça, un colloque autour de Michel Ragon, puisqu'on fêtait le centenaire de sa naissance. Et donc, on aura Sylvain Nongboulou qui restera, puisqu'il est historien, et qui sera rejoint par Thierry Maricourt, et qui viendront nous parler un petit peu de Michel Ragon, puisqu'on fête le centenaire de sa naissance cette année. Et j'en profite pour dire que le groupe Kropotkin, à cette occasion, on ne pouvait pas ne pas rendre un hommage à notre cher ami, fera également une rencontre. Alors, j'ai plus la date exacte en tête. Je vous invite à aller sur kropotkin02.org, histoire d'avoir les informations et le programme complet du groupe. Mais on aura également une rencontre avec son épouse, son biographe et des gens qui ont côtoyé Michel Ragon, qui viendront nous en parler.
Alors, c'est vrai que Michel Ragon l'a aussi beaucoup entendu sur Radio Libertaire, puisqu'il a été plusieurs fois invité. Moi, je me souviens qu'à une époque, je l'invitais à chaque sortie de livre.
Ben oui.
C'était systématique, et en plus, c'était quelqu'un de charmant, très agréable.
Oui, ce serait dommage.
Oui, ce serait dommage. Donc là, on a fait un peu le tour, mais il n'y a pas que ça, parce que j'ai vu qu'il y avait des ateliers.
Oui.
Ou un atelier.
Oui. Tous les ans, on essaie d'avoir des ateliers en rapport avec le monde du livre et ou de l'édition, de l'impression. L'année dernière, souvenez-vous, on avait un atelier de typographie à l'ancienne.
Magnifique,
effectivement.
Avec une casse.
Il y avait même une presse à épreuve. Enfin voilà, on a la chance dans l'Aisne d'avoir le dernier journal qui est encore imprimé au plomb sur une rotative de 1924. On a fêté son anniversaire il y a pas longtemps. Voilà, je fais partie de l'équipe, hein, donc je fais un petit peu la promo. Donc voilà, la copine était venue nous présenter un petit peu l'imprimerie typographique. On avait eu également de la linogravure. On avait eu un atelier de street art avec notre copain Fever qui avait fait de l'initiation au graphe. Enfin voilà, on essaie toujours d'avoir ce genre d'atelier également, puisque c'est la fête du livre, c'est un moment très familial. Donc cette année, on a quelque chose d'un petit peu particulier. C'est des amis lillois qu'on a fait venir qui ont un atelier de trash gravure. Donc en fait, ils font les poubelles et ils récupèrent des matériaux, des matières premières hein, qu'on a tendance à jeter à leur idée un petit peu rapidement. Donc ils les récupèrent et ils invitent les gens à venir faire des gravures dessus, à imprimer également. Et ils ont un petit peu de sérigraphie, etc. Enfin, ils vous en parleront beaucoup plus en détail.
Ah ben ça fait beaucoup de choses, tout ça.
Ça fait pas mal de choses, c'est du boulot.
Et entre-temps, on peut boire un coup.
Entre-temps.
Il peut se passer quelque chose.
Effectivement, comme on a dit, il y a toujours la buvette qui est ouverte avec des prix qui n'ont pas changé depuis 10 ans. Hein, je pense qu'on peut le dire, il y a de l'inflation partout.
On a passé la crise d'inflation.
Ah non, ici, voilà, donc vous aurez possibilité de boire avec ou sans alcool, des boissons froides, des boissons chaudes, tout ce que vous voulez à la buvette. Et on fait de la petite restauration, donc il y aura des frites, attention, des pommes de terre locales d'un agriculteur du coin qui ont été
épluchés à la main.
Épluchés par
regarde
nos soins.
Un peu mes
voilà,
mains.
Ça a pris une journée complète d'épluchure comme d'habitude. On fait toujours, on promeut une société. C'est pas pour acheter des conneries surgelées derrière. Donc il y aura des frites, des croque-monsieur, des grillades. On a des courgettes, des pâtissons en grillade. Enfin bref, il y a
de quoi.
Il y a de quoi faire. Effectivement, il y a des gâteaux. Il y aura un petit peu de fromage, enfin voilà, il y a énormément de choses, et le tout à prix libre évidemment.
Bon, tu rappelles un peu où c'est ?
Alors, où c'est ?
On est où ?
À Merlieu et Fouquerolles dans l'Aisne, donc on est entre Laon et Soissons.
Alors, je signale que sur le GPS, ça existe.
Oui, tout à fait.
Hein, c'est bien un côté pratique.
Aujourd'hui, c'est le meilleur jour pour venir, effectivement. Enfin, ça vaut toujours le coup de venir à Merlieu et Fouquerolles. Vous serez toujours bien reçu. Hein. Si vous venez au bureau de Fouquerolles, même si ce n'est pas la fête du livre, globalement, on vous paiera toujours un café. Vous serez bien reçu. On vous invite à venir nous voir, discuter. C'est le lieu historique du groupe Kropotkin. Hein. Maintenant, on a parlé un petit peu de l'Étoile Noire. On s'est aussi installé à Laon. Mais historiquement, on était le groupe de Merlieu. Donc maintenant, on est le groupe de Merlieu et Laon. Donc c'est entre Laon, L-A-O-N, hein. Il y en a qui disent Laon, mais c'est Laon, L-A-O-N, la préfecture de l'Aisne, et Soissons.
Bah, vous pourriez peut-être prendre la totalité du département pour commencer.
C'est prévu.
Ah,
on a commencé, voilà, on
vous
s'installe
avez fait
petit à petit,
et
exactement.
Tout, là,
oui. Mais de toute façon, je veux dire, pour faire une révolution internationale sur le monde entier, il faut commencer quelque part. Bon, bah, nous, on était là, donc on a commencé là où on était. Hein. On s'est dit, on ne va pas commencer à aller prendre tel endroit ou tel autre. On n'est pas là pour.
On fait du local. Quoi.
Voilà, on était là, on commence là. Puis si tout le monde commence là, bah, au bout d'un moment, on se rendra compte que c'est nous les plus nombreux.
Ok, ben voilà, c'est le Forum Social Libertaire. Ah, ben à Merlieu, on vous attend tous.
Ben oui, on va rendre l'antenne pour le premier débat qui ne devrait plus tarder.
Oui, et en attendant le premier débat, un tout petit peu de musique.
Pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'homme à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Fallait crever de faim ici tous ensemble. Soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couvert de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Oh, 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 oh. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Il y a le bon étranger, celui que tu accueilles les bras grands ouverts. Et il y a le mauvais, celui que tu pourchasses dès qu'il a franchi ta frontière. Il y a le bon, celui qui te sera utile. Et il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta ville. Si tu cherches la brute, va là où on parle dollar cash et pétrole brut. Mais ne cherche surtout pas le shérif. Je l'ai shooté quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches. Oh, yo. Oh, yo, yo, yo. Citoyen du monde, partisan. Il y a tellement de petits sur cette terre, tellement facile à abattre. Vois toutes ces frontières, ce ne sont que de sombres cicatrices. Plaies ouvertes d'anciennes conquêtes, vestiges de vains sacrifices. Tant de pauvres soldats envoyés au charbon sont morts pour eux. Combien au chaud la victoire était fêtée au champagne par leur colonel. Il n'y a qu'un seul rêve que je poursuive, une seule phrase qui en moi résonne. Par-delà les frontières, la terre doit appartenir à tous ou à personne. Oh, yeah. Oh, citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières.
En direct de Merlieu pour le Salon du Livre Anarchiste. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération Anarchiste. Le débat prévu à 10h30 est en train de se mettre en place. Donc on va patienter avec encore un petit peu de musique.
C'est mes chansons dans tes sourires, tes bras qui m'empêchent de mourir, cette route que je ne savais pas. Un beau bordel organisé, qui se fout pas mal des défilés, c'est la solitude à mes pas. Du noir aux ongles de ma folie, mon anarchie. C'est de l'amour sans les barrières, la fraternité sans frontières, les nuits, les jours que je dévore. Une règle de vocabulaire aux conjugaisons libertaires pour mieux écrire merde à la mort. Le feu dans toutes mes envies, mon anarchie. Ne va pas poser des bombes, taguer des vitrines ou des tombes. Aux flics, elle préfère les clous. Mais au point levé des sans-voix, elle joint le sien pour le combat de l'utopie contre les coups. Parce que tout pouvoir est maudit, mon anarchie. Des drapeaux menteurs qui nous bernent, elle connaît trop les balivernes. Rouge sillon de la patrie. Aux églises de sang et d'or, elle préfère le maigre décor des bars des copains de la nuit. Elle vous laisse à vos litanies, mon anarchie. S'endort, la liberté d'y croire encore a comme amour en étendard. Elle a partout des camarades, de mots d'espoir et d'engueulades, et des couplets pleins les guitares. Le chant de mon cœur sans parti, mon anarchie. Mais j'aurais beau te l'expliquer, te parler de paix, de respect, le mot fait peur dès qu'il est dit. Sans haine, sans violence et sans armes, ni Dieu ni maître dans ses larmes, rien d'autre qu'un hymne à la vie. Comme les trois mots sur des mairies, mon anarchie.
Mon anarchie, Eric Frasiak, sur Radio Libertaire 89.4 en direct de Merlieu dans l'Aisne pour le Salon du Livre Anarchiste. Le débat qui devait commencer à 10h30 prend un petit peu de retard, mais vous savez que ça se passe toujours comme ça. Ah bon, on va patienter encore un petit peu avec la compagnie Jolie Môme. Ah, elle démarre la compagnie Jolie Môme, on dirait qu'elle a du mal.
la vie, la santé et l'amour sont précaires, pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ?
C'était Laurence Parisot, présidente du MEDEF.
On te prend, on t'essore, on te jette, on te vire.
On te prend, on t'essore, on te jette, on te vire.
Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire.
Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a. Y'a basta, y'a basta, y'a basta.
La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs.
La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs.
Les loyers, c'est la fête, mais pas pour ta tirelire.
Les loyers, c'est la fête, mais pas pour ta tirelire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a. Y'a basta, y'a basta, y'a basta.
Les télés, les matraques disent de bien se tenir.
Les télés, les matraques disent de bien se tenir.
C'est la peur qui remplace les rêves d'avenir.
C'est la peur qui remplace les rêves d'avenir. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a. Y'a basta, y'a basta, y'a basta.
On te filme, on surveille tes soupirs.
On te fiche, on te filme, on surveille tes soupirs.
Orwell dans sa tombe n'a pas fini de rire.
Orwell dans sa tombe n'a pas fini de rire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a. Y'a basta, y'a basta, y'a basta.
Sans papier, sans logement, juste bon à offrir.
Sans papier, sans logement, juste bon à offrir.
Tes deux bras, ta sueur, pour nos villes à construire.
Tes deux bras, ta sueur, pour nos villes à construire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a. Y'a basta, y'a basta.
Si tu veux réussir,
mort ton voisin si tu veux réussir.
C'est la rage du gagnant, il faut vaincre ou mourir.
C'est la rage du gagnant, il faut vaincre ou mourir. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a. Y'a basta, y'a basta, y'a basta.
Alors on la quitte, aux vacances prochaines il ira en Égypte. On est sûr de bronzer, vu le prix que ça coûte. Alors là, pas de doute, il sait bien ce qu'il veut. D'ailleurs il est très clair, il faut ouvrir les yeux, mais fermer les frontières. C'est rien que des feignants, ça veut jamais bosser, mais ça vole pourtant le travail des Français. Et quand on voit ce qu'on voit, puis qu'on est réaliste, bah lui il en revient pas trop si peu raciste. Il est souvent même assez tolérant. La preuve, il a un pote coréen comme un accent. Mais là, c'est l'exception qui confirme la règle. On serait bien dans la merde s'ils étaient tous français dans l'équipe de France. Et comme il est inquiet chaque fois qu'il y pense, cela bien entendu qu'il faut pas les confondre. Ils sont les bienvenus pendant la Coupe du Monde. Et quand on voit ce qu'on voit, et puis quand c'est ce qu'on sait, bah lui il en revient pas l'avoir toujours pensé. Alors bien sûr, et puis c'est évident, qu'une femme s'est fait pour garder les enfants, pas pour être voilée. Lui, la sienne, c'est vrai qu'elle est libre au foyer. Mais entre le tchador et puis les kamikazes, c'est toujours la goutte d'or qui fait déborder le vase. Et là, c'est la panique. On dira ce qu'on veut, c'est pas très catholique de croire autant en Dieu. Mais quand on voit ce qu'on voit et puis qu'on vit ce qu'on vit, ben lui, il en revient pas de l'avoir toujours dit. C'est très logique et pas du tout facho. Mais que fait la police avec tous nos impôts? Cela dit, faut ce qu'il faut. Décider, il en a, lui, il vote à chaque fois. C'est la démocratie, il a le droit de s'exprimer. N'en déplaise aux gauchistes, aux femmes et aux PD. Puis comme il est d'accord que la vie c'est sacré, il est pour la peine de mort et contre l'IVG. Mais quand on voit ce qu'on voit et puis qu'ils font ce qu'ils font, ben lui il n'en revient pas d'avoir eu bien raison. Mais quand on voit ce qu'on voit et puis qu'on dit ce qu'on dit, ben lui il n'en revient pas d'avoir pas tout compris. Tous les hommes sont frères, c'est la démocratie. Tous les hommes sont frères. Mon Dieu, mais quelle famille!
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Le débat est en train de s'installer, mais alors petit problème technique. Dominique, je préférerais que tu te mettes sur l'autre micro, à l'autre bout. Merci. Oui, c'est-à-dire que mes micros ont un petit peu souffert de l'humidité cette nuit. Eh bien, Dominique, je te donne la parole.
Oui, eh bien, bonjour. Pour ce premier débat qui démarre un petit peu en retard, vu l'affluence à la fête du livre, les conditions de circulation pour aborder le village ne sont plus ce qu'elles étaient dans le temps. Par contre, j'ai cru en comprendre qu'il y avait un temps humide en Picardie. Mais c'est normal. Voilà, alors aujourd'hui, pour le premier débat, nous accueillons Arnaud...
C'est vrai.
Voilà, voilà. C'est mieux quand c'est dit par, hein, par le détenteur du nom, qui va nous parler d'une lutte, écologiste, une lutte menée par un village dont Arnaud est le maire, à Courmel, dans l'Aisne, contre l'implantation d'une usine très polluante. Il va nous faire le point de la situation et d'ores et déjà, j'annonce que... le livre qu'il a coécrit avec David Bréger, Le village contre la multinationale, est disponible sur la fête du livre, soit directement auprès d'Arnaud, soit sur nos tables de presse, la table de presse du groupe Kropotkin, qui est la première en entrant dans le salon du livre anarchiste. Alors Arnaud, merci d'être arrivé jusqu'à nous, et voilà, roucoule. Ici, tout le monde connaît, mais là, on est sur Radio Libertaire qui est aimée au niveau international. Donc, qu'est-ce que c'est que cette usine Roucoule et qu'est-ce que c'est que cette lutte? Comment ça a commencé? Alors, tu essaies de le faire relativement court pour qu'on puisse après débattre.
Bien sûr. Donc, je vais la faire brève. Donc, je suis Arnaud Zrek, maire d'une commune de 1800 habitants près de Soissons. Je suis jeune élu depuis 2020, c'est mon premier mandat. Et dès mon arrivée aux fonctions, j'ai eu à instruire un dossier d'urbanisme pour la création d'une usine de laine de roche, l'usine Roucoule, dossier que je ne connaissais pas particulièrement. Et j'ai commencé à découvrir qu'il fallait une autorisation d'exploiter. Et dans l'autorisation d'exploiter, donc, il était fait référence à tous les produits qui allaient être émis dans l'atmosphère. Il y avait aussi la plaquette qui présentait le nombre d'emplois. Donc on était sur un ratio de 3 emplois à l'hectare, ce qui semble dérisoire, alors qu'actuellement sur la zone on est à 30 emplois à l'hectare. Et surtout des produits d'une dangerosité extrême qui allaient être répandus dans l'atmosphère. À commencer par ce qu'on commence à voir maintenant poindre, ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Donc j'ai la chance d'avoir dans mon entourage une sœur, un beau-frère et une ex-femme, on va dire, professionnelle de santé, qui m'ont tout de suite alerté sur la dangerosité de ces produits-là. Donc les perturbateurs endocriniens, c'est on ouvre la boîte de Pandore. Là, on commence seulement à découvrir les dangers sur la santé. Tous les dyspraxies, dyslexies, dysorthographies, autisme et autres pathologies. Donc, renseignements pris, tous ces perturbants endocriniens, ce ne sont pas des quantités émises, mais c'est surtout des durées d'exposition. Donc on découvre aussi au passage que le sens des vents dominants emmène les fumées vers la cuvette et le bassin de population soissonné, 60 000 habitants. Je rappelle au passage que j'ai quand même la salubrité publique sous ma responsabilité. Et donc, fort de tous ces éléments-là, et par rapport à un dossier d'urbanisme qui était vraiment approximatif, je refuse de délivrer le permis de construire. À partir de là débute un bras de fer, donc comme le titre l'indique, le village contre la multinationale. À maintes reprises, on m'a dit le pot de terre contre le pot de fer. Qu'à cela ne tienne, je suis homme de conviction, j'aime aller jusqu'au bout des choses. Et j'ai commencé à rencontrer aussi les premiers opposants qui m'ont expliqué leur motivation. Et donc on est parti, on va dire, en lutte acharnée, avec des gens déterminés, plein d'arguments entendables vers cette lutte-là. Donc, refusant le permis de construire, on m'a assigné devant le tribunal administratif. Au tribunal administratif, j'ai été débouté. On m'a dit que mon refus était illégal, mais j'ai décidé de faire appel. Or là, récemment, et c'est quand même inédit, un scénario assez inédit, j'ai obtenu gain de cause en cour d'appel sur deux points, c'est-à-dire que mon refus de délivrer le permis de construire était légitime, puisque là, il y a des dépassements de hauteur qui sont vraiment énormes. Et surtout, argument qui a été développé par l'industriel, comme je suis, j'habite pas très loin, on me disait que j'ai servi mes intérêts, donc que j'ai manqué d'impartialité dans l'instruction du dossier. Donc, quelque part, ça jetait l'opprobre sur ma morale, sur mon éthique, sur mes motivations. Et de ça, j'en ai été blanchi par la cour d'appel de Douai. Donc, qu'à cela ne tienne, cet industriel-là s'était targué d'avoir, on va dire, étudié 19 autres sites. Force est de constater qu'il s'acharne sur ce projet-là parce qu'il n'y a pas de solution alternative. Donc voilà où on en est. Donc maintenant, il se pourvoie devant le Conseil d'État pour essayer d'obtenir gain de cause. Et donc, la lutte continue. Dans cette optique, il y aura une manifestation samedi prochain dans les rues de Soissons. C'est des manifestations bon enfant où tout le monde peut échanger avec tout le monde. C'est transpartisan. Moi, j'ai eu l'occasion, à travers ce combat-là, de rencontrer des belles personnes de tout horizon. Quand on est, je sais ce que je dis, les combats perdus d'avance sont ceux qu'on ne mène pas. Et surtout, autant seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est vraiment la philosophie de ce combat. C'est là aussi que j'ai rencontré Dominique, ses amis, d'autres forces vives, de personnes altruistes, tournées vers les autres et soucieux du bien collectif.
Voilà. Bon, merci pour c'est bref, hein, ce fut une lutte conséquente au niveau juridique qui dure. Vous savez, le pouvoir en place utilise tous les arguments pour fatiguer les gens qui sont contre. Là, bon, on est reparti pour des délais administratifs juridiques.
À minima 18 mois. Là.
Oui,
18
à minima
mois
18
avant qu'une décision soit prise.
Voilà. Bon, alors, ça nous laisse un peu le temps de préparer la suite. Donc, tu annonces là tout de suite qu'il y aura une manifestation le 5 octobre. Il faut absolument y aller. C'est pas quand on aura une usine Eurocool. Rassurez-vous, on ne l'aura jamais. On n'est pas comme ça, nous, on ne laisse pas faire des aberrations. Mais il faut se mobiliser dès maintenant, il faut montrer que, voilà, on n'en veut pas pour Eurocool, c'est une technologie polluante, et il y a d'ailleurs d'autres usines Eurocool.
Oui, alors je rebondis sur ce que tu disais, Dominique, et je vais abonder dans ton sens. J'ai eu des contacts avec les gens dans le Massif Central, une ville qui s'appelle Saint-Éloi-les-Mines, près de Clermont-Ferrand, où Eurocool est installé depuis les années 80. Et si dans les années 80, on les a vus arriver comme des libérateurs parce que les mines fermaient et qu'il fallait absolument avoir du travail, à l'époque, déjà, un vent d'opposition soufflait sur ce projet-là. Et donc, j'ai eu contact avec des gens qui m'ont dit, moi, à l'époque, j'étais jeune adulte, j'avais 20 ans, et en fait, on s'est pas mobilisé comme on aurait dû, l'usine est arrivée. Et s'il y a quelque chose que je regrette dans ma vie par-dessus tout, c'est à l'époque de ne pas m'être mobilisé davantage pour éviter ce genre de désagrément, parce que les gens subissent ça. Saint-Éloi, c'est situé dans une cuvette. Alors, j'ai eu le tort de faire une comparaison un peu malheureuse avec une ville qui avait connu un désastre nucléaire. Mais il est vrai que 40 ans de présence à Saint-Éloi-les-Mines ne m'ont pas convaincu quant au fait que ça puisse amener la prospérité, notamment du fait de beaucoup de maisons abandonnées, d'une population laborieuse, de gens pris en otage, dont les maisons sont invendables et qui font preuve d'une forme de fatalisme en disant « ben voilà, c'est la vie, elle est comme ça, on continue à subir parce qu'on a besoin de manger à la fin du mois ». Ouais. Donc nous on a la chance, excuse-moi Dominique, je termine. Donc nous on a la chance pour l'instant d'avoir fait en sorte que la première pierre ne soit pas posée. Tout le monde sait pertinemment qu'une fois que la première pierre sera posée, les autorisations d'exploiter, les autorisations diverses et variées, les dérogations sur les dépassements, comme c'est le cas à Saint-Éloi, sur les normes de pollution, sur les consommations d'eau qui sont astronomiques, hein, et Dieu sait que là, c'est quand même la confiscation d'un bien universel, hein, l'eau appartient à tout le monde, l'air également, il sera trop tard. Donc je suis désolé de le dire, c'est maintenant ou jamais. Voilà, il faut se rassembler, et c'est maintenant qu'on doit y aller.
Oui, de toute façon, bon, on sent bien que aujourd'hui, cette technologie est déjà une technologie du passé. Disons que on a des alternatives,
oui,
pour produire, pour s'isoler, pour voilà. Donc on voit bien que qu'est-ce qui est sous-tendu là-dessous, c'est le profit. C'est-à-dire que c'est deux choses différentes de faire des choses, de produire pour satisfaire les besoins des gens, et puis produire, quitte à produire des produits toxiques pour gagner de l'argent. Quoi. On est bien dans une société capitaliste, et là on voit que l'administration... Hein, on est dans une période où tout le monde se bat pour, comment on appelle ça, contre le réchauffement
climatique,
pour inverser les décisions qui ont été prises jadis. Et on continue absolument politiquement à se lancer dans des aventures qui sont dépassées. Le nucléaire, les industries polluantes, alors que manifestement, tout un travail a été fait pour montrer qu'on peut produire des choses qui sont pas toxiques et qui sont moins chères,
plus durables,
plus durables, etc. Et du coup, on sent bien que ce combat-là, c'est un combat de fond. On voit bien quand le préfet se mobilise pour casser tout le... Parce que ça a été très loin pour ta commune,
oui,
quand même. Hein.
Raconte, oui, un peu. Alors, en fait, si vous voulez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de nous dire, on a un président qui s'est levé un matin en disant, ben voilà, on va réindustrialiser la France parce qu'on s'est rendu compte pendant la crise du Covid qu'on n'avait plus de Doliprane. Bon, moi, jusqu'ici, tout va bien. On est en train de nous dire, voilà, il faut produire de l'isolant parce qu'on a retiré, je crois, ces 500 000 logements qui sont considérés comme des passoires énergétiques. Et aujourd'hui, on a un problème de mal logement. Donc finalement, on a là la possibilité d'avoir un produit pas cher, avec une ressource, donc c'est de la laine, c'est de la pierre de lave du basalte, donc une ressource censée être inépuisable, et on vous dresse un bilan carbone en vous disant, ben voilà, on va émettre beaucoup de pollution lors de la fabrication du produit, mais on va gagner énormément par la suite en dépenses énergétiques. Alors il faut quand même savoir que la laine de roche, c'est un matériau, n'est pas doté d'intelligence, c'est-à-dire qu'elle retiendra le chaud l'hiver, mais elle retiendra aussi le chaud l'été. Et moi, il m'a été donné l'occasion de me rendre dans des grands ensembles en région parisienne, où là, l'asphalte et le bitume sont rois, en période de canicule, et là, c'est insupportable, on ne peut pas vivre dans ces appartements surchauffés. Une fois de plus, c'est les moins favorisés qui subissent. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On actionne des climatisations, mais donc là encore le bilan carbone épouvantable, mais ça on ne calcule pas ça, on ne met pas ça dans l'équation. Et, sauf à ce qu'on me démente, j'ai plutôt entendu parler d'un réchauffement global que de l'arrivée d'un petit âge glaciaire. Donc tout dans ce dossier-là n'est que élément de langage, malhonnêteté intellectuelle. On me dit voilà, recoule, c'est de l'emploi. Tu es contre recoule, tu es contre l'emploi. Ben, moi je vais reprendre un exemple, hein, si on va dans le même sens. On s'évertue à faire de la croissance. Plus on fait de la croissance, plus il y a de pauvres. Peut-être que si on faisait de la décroissance, on ferait décroître le nombre de pauvres. Voilà, c'est le même type de raisonnement. Donc, voilà, on peut toujours être plus... Voilà, Dominique, tu rigoles, mais en fait, c'en est risible, parce que autant on peut dire, des fois, les gens séparément, il n'y a pas des fois de signe d'intelligence dans les remarques, autant collectivement, je suis persuadé qu'il y a une bonne intelligence collective, une bonne conscience. Moi, dans toutes ces procédures-là, qui sont vraiment très coûteuses, hein, je peux donner l'ordre, de toute façon, c'est public, on en est aujourd'hui allègrement à 150 000 euros d'honoraires d'avocat. On est très bien défendu. C'est ce qui nous a permis de tenir dans la durée. Et moi, étant le garant des bonnes dépenses de ma commune, je dois gérer ça en bon père de famille. J'ai fait un exercice qui est on ne peut plus démocratique. J'ai fait une consultation citoyenne. Chacun a pu venir voter en son âme et conscience, donner son point de vue. Voilà, il y a eu 430 suffrages exprimés sur 1200 inscrits, je crois, de mémoire. Et le non à l'usine est ressorti à 96,6%. Ce qui veut dire que les gens, dans leur immense majorité, approuvent mes décisions de faire valoir nos droits. Je suis aussi le garant du bon droit, des règles d'urbanisme. Donc tout le monde doit être soumis, particulier comme industriel, aux mêmes règles d'urbanisme. Voilà, c'est un mode d'emploi. Soit on est dans le cadre de la loi, soit on ne l'est pas. Or, force est de constater, la décision de justice abonde dans ce sens, Rocoule n'est pas dans le cadre de la loi.
Voilà. Et bon, pour rebondir un peu sur ce n'est pas dans le cadre de la loi, moi j'aimerais bien que tu parles un petit peu des tracasseries, parce que par exemple là, bon, tu nous donnes un chiffre, 150 000 euros de frais de justice pour simplement faire valoir nos droits. Et tu verras qu'un jour, on te reprochera d'avoir investi autant d'argent au détriment d'autres activités.
Mais c'est déjà le cas. Je vois où tu veux en venir. En fait, j'ai eu la malchance, hein, c'est un drame d'ailleurs, toutes mes condoléances à la famille de la victime, d'avoir des coulées de boue meurtrières au mois de mai, donc de déplorer une victime sur ma commune. Et il m'a été dit, et bon, je ne citerai pas là le nom de la personne qui me l'a dit, parce que voilà, au lieu de diriger de l'argent vers des frais de justice pour s'opposer à un projet de réindustrialisation, j'aurais dû mettre tout en œuvre pour faire des équipements pour éviter des coulées de boue. Or, on est dans un phénomène qui est complètement anormal, qui n'était pas prévisible. Et utiliser ce décès-là pour essayer de me déstabiliser, j'ai trouvé quand même le coût très bas. Et quelque part, ça m'a conforté dans ma façon de continuer à m'opposer, parce que quand on tient ce genre d'argument, c'est qu'on est fébrile quant à faire entendre son point de vue. Donc, ça n'a fait que renforcer mes convictions en disant, voilà, je suis dans le bon droit, on est dans un état de droit. Alors, n'en déplaise, hein, c'est vrai que des fois, c'est difficile à entendre par le commun des mortels, mais je reste persuadé, j'ai confiance dans la justice de mon pays. Et voilà, et c'était difficile à dire quand j'ai été débouté la première fois. Je vois des mines sceptiques dans l'Assemblée. Mais le résultat est là, la cour d'appel a tranché et a abondé dans le sens du droit.
Oui, c'est une bonne nouvelle que quelquefois la justice fait respecter le droit.
C'est
Ce que nous, en tant qu'opposants, anarchistes en plus, donc qui sommes par définition contre l'État, contre la loi de l'État, c'est évident que les trois quarts du temps, voire la répression du mouvement populaire, des Gilets jaunes, voir comment on mate les manifestations qui sont si un droit constitutionnel pour les gens qui ne veulent pas d'un projet de retraite qui les fera travailler beaucoup plus en gagnant moins encore. Mm-hmm. Effectivement, pour nous, c'est une justice de classe. Il n'empêche que il y a certains moments, des juges arrivent à faire
valoir le droit, voilà, d'autant objectivité.
D'autant plus qu'il y a des on les prend souvent aussi pour des cons, pour dire les choses comme et ça leur plaît pas forcément tout le temps. Faire croire que la pollution engendrée par une activité comme celle de Roucoule ne pose aucun problème ou ne posera aucun problème à la population, alors qu'on démontre le contraire. Eux, ils sont quand même dans une structure où c'est argument contre argument, et leur faire dire des choses aberrantes, ça devient quasiment vexant pour un tas de magistrats qui on en est là et on nous impose des choses qu'on ne veut pas, mais la réaction de la population est quand même pas mal, je trouve, hein, la cité au niveau du village.
Elle est sans ambiguïté, elle est sans ambiguïté. Voilà. Alors on nous dit, voilà, faites confiance aux services de l'État, faites confiance à l'ARS. Alors bon, moi j'ai rien contre l'ARS, je suis assez pragmatique. Je crois me souvenir que c'est l'ARS qui a traité le problème du chlordécone aux Antilles. Mmh. Et puis bizarrement, bah, c'est en Guadeloupe qu'il y a eu le plus de réticence à la vaccination contre le Covid. Je pense aussi à la gestion des masques, c'est-à-dire qu'au départ de la pandémie, si on peut appeler ça une pandémie, hein, on n'avait pas besoin de masques parce qu'on n'en avait pas. Puis une fois qu'on en a eu, on les a gardés 3 ans. Donc c'est ce discours qui est plus audible. C'est-à-dire que les gens, voilà, on a le bon sens. Alors moi, je suis paysan à côté. Alors on va dire le bon sens paysan. Les choses, elles sont blanches ou elles sont noires, mais elles changent pas de couleur au fil du temps ou de l'interlocuteur. Donc moi, ces histoires de l'ARS dont on n'a pris aucune, on n'a pas entré en considération le sens des vents dominants. On disait tout à l'heure là les perturbateurs endocriniens. On en est qu'au début des études sur l'impact sur la santé. Je crois me souvenir qu'au niveau du département, il y a une délibération qui a été prise justement pour faire la chasse aux perturbateurs endocriniens. Mmh. Donc moi, j'ai des enfants à la cantine, on me dit, monsieur le maire, il faut faire le maximum pour réduire les perturbateurs endocriniens. Mais à côté de ça, le même département donne un blanc-seing à l'arrivée de cette usine-là, allant jusque la défalquer de la part d'impôts fonciers de la part départementale pendant une durée au-delà du raisonnable. Quand dans un même temps, on me dit, ben voilà, le département de l'Aisne connaît des difficultés financières, mais on peut plus entretenir les routes parce qu'il y a trop de social à faire dans l'Aisne, voilà. Mmh. Moi, ce discours un peu simpliste, quelque part, des fois, ça me donne un peu mal à la tête, et j'aime pas avoir mal à la tête.
Non, mais c'est vrai que, bon, nous, on a connu ça, il y a Roucoul, mais il y a aussi Couvron, hein. Je veux dire, on donne quasiment un ancien, c'est 400 hectares, pour une somme dérisoire à un particulier, pour faire quoi ? Pour faire le plus grand circuit de course automobile d'Europe, alors que on est en train de nous bassiner pour dire qu'il faut modifier les normes, faut prendre des voitures électriques, ce qui n'est pas forcément une solution plus viable que le pétrole, parce que fabriquer du nucléaire alors qu'on sait même pas quoi faire des déchets. On voit bien qu'on est dans une société où les choses se font pour le profit immédiat, voilà. Et pour le reste, et ben les gens se débrouilleront ou, comme ils disent, on fait confiance à la science,
voilà, hein,
pour trouver une solution pour résoudre les conneries qui ont été faites avant. Mais bon, il ne faut pas se tromper, par exemple, l'amiante qui est aujourd'hui un scandale et qui coûte des vies humaines en nombre, au moment où les autorisations de produire de l'amiante comme isolant, il y avait des alternatives. Hein, qui ont été, on a les preuves, on a les dépôts de comment on appelle ça, les dépôts de brevets, oui. Pour fabriquer autrement et autre chose. On avait tout pour éviter ce scandale-là. Mais bon, quand il y a du profit à faire, les capitalistes choisissent de faire, y compris n'importe quoi, parce que de toute façon, ils gagneront toujours de l'argent. Surtout. Un, pour fabriquer l'amiante, et deux, pour désamianter après. Donc,
Alors, pour rebondir un petit peu, c'est vrai que c'est l'argent roi, parce qu'il faut quand même savoir que Roucoul, qui est un groupe international, contrairement à d'autres industriels, a décidé de rester implanté en Russie, a même produit de l'isolant pour les frégates russes. Donc, quelque part, il est industriel pour soutenir une économie de guerre. Voilà, c'est ça. Il y a aussi un problème d'éthique. Hein, quand on nous dit, voilà, Roucoul est durable, la laine de roche est recyclable à l'infini. Alors, tout ça, c'est des éléments de langage. Il faut savoir que le pourcentage de laine de roche qui est recyclée doit être de 0,05%. La plupart de l'utilisation, hormis les usages pour les collectivités, c'est le bricoleur du dimanche qui isole sa maison avec de la laine de roche parce que c'est abordable, et puis qui, quand il démonte tout ça, ben, emmène ça à la déchetterie et puis ça finit enfoui. Donc une grande partie de tout ça finit en déchets ultimes dans des décharges contrôlées soit, mais en déchets ultimes. Et c'est surtout, alors si on peut contester la toxicité du basalte, c'est le produit liant qui va faire la fibre qui lui est d'une extrême toxicité. Et donc on vit avec ça au-dessus de nos têtes. Donc pour l'instant, par des jeux de passe-passe, on nous dit bon, ben voilà, il y a des dérogations, c'est toujours un produit autorisé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec la dangerosité et puis le chemin qu'a connu l'amiante.
Mais bon, sans compter que, par exemple, une autre problématique actuelle, c'est la gestion de l'eau. de l'eau potable, et c'est une usine qui va pomper énormément.
Voilà, alors là c'est pareil. Alors bon, on y a été extrêmement sensible l'hiver d'il y a 2 ans, parce que c'était un oxymore. On était en sécheresse hivernale dans l'Aisne. Donc nous, c'était des mots qu'on n'était pas censé pouvoir se voir associés. Donc là, il faut savoir quand même que Rocoule, c'est 20 mètres cubes d'eau à l'heure. Donc 20 mètres cubes d'eau à l'heure, c'est une consommation énorme d'eau qui viendra principalement de la nappe phréatique. C'est aussi une énorme consommation d'électricité. Alors, je me rappelle des slogans publicitaires quand on s'est retrouvé avec des réacteurs fermés, on était en pénurie d'électricité. Alors, là encore, tout ça, c'est pour faire culpabiliser les gens. Aujourd'hui, on vous dit, voilà, c'est le moteur à explosion, le diesel qui pollue, c'est de votre faute si ça pollue, donc on va mettre des taxes. Donc nous, en payant des taxes, on pense qu'on s'achète une bonne conscience, mais en fait, on n'a pas de solution alternative. On retrouve exactement le même problème là, c'est-à-dire qu'on nous disait, voilà, éteignez vos lumières, différez, faites en sorte soyez vertueux avec l'électricité. Rocoule, le four électrique de la ligne de production, c'est l'équivalent de 4% de la production d'un réacteur nucléaire à eux seuls. Donc là encore, de l'énergie pour du profit. Bon, la problématique n'est plus la même, mais on sait que ça peut arriver. Après, ils nous disent, voilà, on va vivre pour moitié avec l'eau qu'on va récupérer sur les toits. Or, aujourd'hui, moi, en tant qu'agriculteur, j'observe, en fait, si on n'est pas dans un réchauffement global, on est tout au moins dans un bouleversement global. C'est-à-dire que on n'a plus le climat tempéré qu'on avait, c'est-à-dire on peut partir sur des périodes, et là, on l'a vécu donc, au printemps et à l'automne dernier, de la pluie incessante pendant des mois et des mois, suivie d'une période de sécheresse qui va produire l'étiage des rivières. Et là, ils n'auront d'autre alternative, ils ne fermeront pas l'usine, que de piocher dans la nappe. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de l'eau potable, hein, quand on sait que peut-être un habitant sur 2 ou 1 sur 3, enfin peut-être voire plus, sur Terre n'a plus accès à l'eau potable, c'est un bien précieux que nous, on ne rationne pas parce qu'il nous semble illimité, on n'a jamais été confronté. Mais là aussi, il faut savoir que l'eau potable, l'eau douce, devient une denrée rare et précieuse. Et il faut en faire bon usage.
Voilà, bon, on a eu quand même pas mal d'arguments pour faire le tour un peu et voir et ne pas comprendre l'aberration des décisions administratives qui continuent à soutenir des projets qui sont néfastes pour tout le monde, hein, oui. Et je pense que c'est même néfaste pour l'emploi. Hein, parce que, bon, une usine polluante, tu parlais de l'exemple de le village
de Saint-Éloi
central, les gens, ils vont pas rester, surtout pour ceux qui sont du coin, on connaît, Soissons, c'est une cuvette. Hein, et toute la pollution, elle ira là-bas. S'il y a une pollution de la nappe phréatique, ça ira là-bas. Voilà. Donc les gens, autres qui pourront plus vendre leur maison, ils ne pourront jamais rester là-dedans. On sait que là où on a fabriqué de l'amiante, c'est des populations entières qui ont été intoxiquées. Donc il n'y a aucune raison... Hein, que sur le temps, il se passe pas la même chose à Soissons si on laisse faire. Bon, heureusement, moi je suis quand même assez esboï de voir le niveau de réflexion de la population locale. Ça m'a fait penser un peu au traité européen. Vous savez, ce traité qui a été refusé par référendum, par la Constitution française, où c'était un texte tellement ardu, etc., que les gens, on peut les embobiner, ils ne comprendront rien. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une mobilisation, et il y a eu des groupes de traduction des positions, des textes. Il y a eu un immense travail de fond qui a été réalisé par des milliers de gens, et qui ont abouti à ce que l'ensemble de la population, une grande partie de la population, en tout cas la majorité de la population, disent « Ah non, 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 ça, dans ces conditions-là, c'est pas cette Europe-là qu'on veut. On veut peut-être une Europe, mais pas celle-là, en tout cas. » Et refus de... Bon, après, je vous passe, hein, ça a été voté, on a changé le titre du texte, ça a été voté par les parlementaires, qui normalement représente la population. Et c'est mon côté anti-électoral là, vous voyez, vous la reconnaissez là. Voilà, on fait les élus des chambres parlementaires sont les représentants normalement de la population. Une population qui a dit non par référendum, voilà. Et ben comment ces gens-là qui sont détenteurs de représenter la population peuvent voter le même texte avec voilà, c'est eux. Voilà, moi j'ai, le système démocratique n'est pas si démocratique que
là,
ça.
J'ai un,
voilà.
J'ai un petit rictus amusé parce que je rebondis sur ce que tu m'as dit. En fait, si vous voulez, il est là le gros problème, c'est qu'en fait, j'ai eu l'occasion de m'entretenir à l'époque avec un préfet qui malheureusement a eu des déboires avec de par ses travers, qui a été démis de ses fonctions, enfin, je ne sais même pas s'il est encore préfet aujourd'hui, qui était dans l'Aisne à l'époque, et qui m'a dit, monsieur le maire, moi je vais donner l'autorisation d'exploiter parce que c'était un bon projet, c'est un projet industriel. Donc, vous devez convaincre votre population que c'est un bon projet. Vous avez un rôle pédagogique. Je lui ai dit, écoutez, monsieur le préfet, sauf votre respect, je vais être un très mauvais pédagogue parce que moi, le premier, je n'y crois pas à ce projet-là. Il m'a dit, ça fait rien, je vais donner l'autorisation. Je lui ai dit, moi, ça fait rien, je vais refuser le permis de construire. Ouais. Voilà les derniers mots qu'on a échangés. Et en me disant, mais de toute façon, le projet se fera. Et moi, d'ici ce temps-là, je ne serai plus dans l'Aisne, je serai reparti sur Paris. Donc, effectivement, il est reparti sur Paris, mais je n'ai plus de ses nouvelles depuis un petit moment. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce brave homme. Donc voilà, je lui disais aussi, je lui dis voilà, alors moi j'ai peut-être rien compris, hein, voilà, je suis qu'un paysan, hein, voilà. J'ai cru comprendre un moment que le fait d'être élu en 2020, j'étais là, pas pour décider pour ma population, mais pour porter haut et fort ses attentes. Et en fait, je pense que c'est là que ça dérègle. En fait, ma fonction, ce serait, je sers mes intérêts, j'envisage la réélection. Et puis, 6 mois avant les élections, je vais faire des promesses aux gens, promesses que je ne tiendrai pas. Moi, j'ai 5 enfants, il y a des choses qu'on leur apprend à l'école, hein, voilà, mais on ne délègue pas tout à l'école. Il y a une partie, ça doit être fait par les parents, c'est des valeurs qu'on véhicule. Hein, voilà, moi, je suis petit-fils de déporté, résistant. Et en fait, quand on a des convictions, on porte ses convictions et on va jusqu'au bout de ses convictions. On se bat pour un idéal. Et mes enfants me l'ont bien rendu, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a eu des manifestations, ils étaient à mes côtés en me disant « Papa, t'es un gars bien, t'es du bon côté et nous on sera toujours là avec toi ». Et ce message-là, cette éducation-là, elle n'a pas de prix. Il faut aller au bout des choses, il faut croire en certaines valeurs. Et c'est en moi en ça, je ne sais pas, alors je l'appelle de tous mes voeux, je pense que de toute façon on va y arriver, on gagnera le combat, mais quand bien même on perdrait le combat... Une chose est sûre, j'ai réussi à inculquer ces valeurs-là à mes enfants et ça c'est inestimable. Et d'autre part, j'ai réussi aussi un exercice assez périlleux, c'est de faire défiler côte à côte dans une manifestation des gens qui, au demeurant, n'ont rien à voir ensemble, qui peut-être passent leur journée à s'imaginer que l'autre est l'ennemi. Et à ce titre-là, je vais terminer quand même par une anecdote parce que c'est un sujet grave, mais il faut des fois savoir un petit peu plaisanter. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui m'ont dit non, on peut pas défiler à côté de ces gens-là. Vous vous rendez compte, on est instrumentalisé. Alors je donnerai pas de nom, je donnerai pas de parti. Ni quoi que ce soit, on ne peut pas, c'est impensable. J'ai dit, écoutez, bon, par contre, vous, on sait, vous êtes apolitique et tout ça, on est là pour vous, mais vous comprenez, c'est scandaleux. J'ai dit, écoutez, ok, j'entends ce que vous me dites, vous avez le droit d'être opposés les uns aux autres, je n'ai pas à choisir ni les uns ni les autres, mais une chose est sûre, le temps d'une après-midi, faites abstraction de vos différences, de vos querelles, de vos combats, de tout ça, et dites-vous que si l'usine arrive... Bah même ceux qui sont en face de vous, que vous n'aimez pas, qui vont vous instrumentaliser, on va tous respirer le même air pollué. Donc, le temps d'une après-midi, allez, faisons la trêve et défilons. Et on y est arrivé. Tout le monde a défilé dans une ambiance bien sympathique. À plusieurs reprises, tous les services de l'État ont misé sur une chose, le fait que nos manifestations dégénèrent pour nous faire passer pour un ramassis de voyous, de je ne sais quoi d'ailleurs.
Il faut dire que vous accueillez aussi des anarchistes dans vos manifestants.
Mais tout le monde est bienvenu, Dominique. C'est transpartisan et c'est ce que je te dis, l'air que tu respires, hein, et voilà, mais j'ai eu l'occasion de te le dire. Voilà, il sera le même que pour des gens qui ont une vue un petit peu plus à droite, plus rigide, enfin ouais, plus psychorigide. Je me permets de faire un peu de jugement, plus psychorigide. Donc voilà, on a réussi cet exercice-là et la force aussi, c'est de dire qu'on rassemble des gens d'horizon tellement différents qu'on a tous nos repères, nos façons de penser. Et chaque fois qu'on a été confronté à un problème, en mettant notre intelligence collective, je pense que là, autour de la table, on a été peut-être même plus performant que l'intelligence artificielle, parce qu'en fonction des sensibilités, chacun a porté sa solution en fonction de la façon dont il était programmé. Et on a toujours trouvé une solution à tous les problèmes. C'est ça la magie de ce combat-là. Et voilà, quoi. Il faut aussi voir, à travers un combat, l'expérience humaine, l'enrichissement personnel, intellectuel, hein, j'entends, pas financier, parce que c'est loin d'être le cas. À ce propos, j'ai été attaqué pour propos diffamatoires par la commune de Saint-Éloi-les-Mines, qui a été déboutée, qui devait faire appel, et puis qui finalement a renoncé à faire appel, sachant que ça allait être perdu d'avance. Voilà. Donc là, une fois de plus, j'ai été réhabilité. Je passe en correctionnel, mais acquitté. Donc, je n'ai pas de casier judiciaire. Je pourrais à nouveau briguer un mandat sur ma commune si le dossier recoule n'est pas terminé. Porter haut et fort mes convictions. Alors, même, Dominique, je comprends, même si là, je vais être un élu de la République et c'est pas forcément le schéma que tu choisis, mais malheureusement, pour m'opposer à tout ça, il y a la lutte que tu mènes, des fois légale, des fois clandestine. Et je reste persuadé qu'il y a aussi la lutte dans les tribunaux et que la victoire dans tout ça, ce sera la conjugaison de la rue et du juridique.
Non mais voilà, tu prêches un convaincu. De toute façon, si les personnes sont capables de défiler avec les anarchistes sont aussi capables de défiler avec des gens qui sont tous anarchistes.
Ah, ben voilà,
là, après, on essaye de voilà. De nous mettre dans voilà. des et c'est la force aussi
ça,
de l'État
pour,
de nous diviser pour régner, toi.
Oui, bien sûr.
Là, moi, ce qui m'intéresse dans cette lutte-là, mais on y est allé. Moi, tu as dû t'en apercevoir. En marchant sur des œufs, parce que comme la réputation, c'est un anarchiste et un terroriste, quoi, en gros, hein, c'est les gens qui sont contre tout, qui respectent rien, qui vont vous foutre un bordel monstre, etc., et qui vont faire fuir tous les gens s'ils participent à la lutte. Bon, voilà, je caricature,
mais de peur.
C'est à peine ça. Voilà, voilà. Du coup. Mais j'ai déjà fait ça pour d'autres associations ou tout, où on y participe parce qu'on est d'accord avec les combats menés et que, ben, on prend position, mais on essaye de pas se mettre, conseil d'administration, je pensais à Caditaine, par exemple, et de façon à ne pas porter le flanc à des magouilles qui nous discréditent et qui voudraient discréditer la lutte, mais qui réussissent souvent. Donc, c'est d'un autre côté, on n'a pas envie de mettre nos positions dans notre poche, mais on sait très bien qu'il y aura une étape. Si la lutte avait été gagnée par des moyens juridiques sans que ça dépasse ce cadre-là, ben nous on aurait été contents, parce que le problème c'est pas de lutter contre un produit polluant, c'est que ce produit polluant ne soit pas fabriqué et que la lutte soit gagnée. Donc on n'est pas nous nés de la dernière pluie, on sait que l'État est derrière, dans une société capitaliste, est derrière le profit et les industriels qui produisent, qui font le profit. Et que donc la lutte, elle sera, on va y puiser avec des amendes, avec des jugements, on va décourager les gens. Oui, il y a une phase ultime après qui sera la confrontation. C'est-à-dire, on va être, dans ce cas-là, là c'est plus la même chose et on y va avec nos étiquettes, mais aussi nos drapeaux et notre savoir-faire. C'est-à-dire que mais c'est important parce que dans la lutte, moi je vois quand on y va dans les manifestations, on rencontre souvent des gens qui ne sont pas anarchistes, puis qui disent ah mais on pensait pas que l'anarchie c'était ça. Il y a des gens qui veulent pas rentrer là dans le salon du livre anarchiste parce que c'est anarchiste. Mais quand ils y rentrent et puis qu'ils rencontrent des auteurs, tout à l'heure il y aura Deninck, des livres qu'ils lisent, qu'ils achètent dans les librairies lambda, et ils sont étonnés ou que Tardy soit anarchiste. Mais non, c'est pas vrai, Tardy. On arrive à un moment où s'impliquer dans les luttes c'est nécessaire et en plus c'est pour nous un travail de soutien d'une lutte mais en même temps d'affirmation de nos idées, c'est-à-dire que je te rejoins sur le fait de dire qu'on doit travailler tous ensemble.
Bien sûr.
Et que alors peut-être que là, bon, le temps passe, hein, et peut-être qu'il faudrait voir un peu comment toi tu vois l'avenir. Est-ce que bon, la mobilisation si quand il y a plus de sur le terrain de manifestations,
si y a un constat.
Voilà. Et donc, est-ce qu'il va pas falloir opter pour d'autres modalités, c'est-à-dire là, ça va être une lutte qui s'inscrit dans le long terme,
oui.
Et que pour tenir, eh bien, peut-être qu'il va faire, je sais pas, par exemple, qu'est-ce que je peux dire comme, bon, par exemple, faire une base
occuper
sur
les lieux.
Voilà, occuper les lieux, faire une base sur le, sur le terrain pour montrer que, ben, même si ça, quand il n'y a pas d'actualité vraiment urgente, eh ben, on va se former. Hein, on va faire des, je sais pas, organiser des régulièrement des colloques pour les alternatives qu'on connaît pas, hein, parce que etc. faire venir des gens qui vont nous éclairer pour approfondir des sujets et faire en sorte que ceux qui étaient encore un peu sur hésitant, ouais, ouais. Bon ben voilà, qu'ils puissent franchir le pas.
Alors, et, s'il y a un constat, c'est que sur une longue durée comme on vient de vivre là, c'est-à-dire on n'est pas dans l'esprit d'un 100 mètres, on est dans un marathon. Et finalement, au fil du temps, les gens qui ont manifesté étaient bienveillants. Il n'y a jamais eu la moindre considération au niveau des services de l'État pour entendre ou pour essayer d'ouvrir un dialogue. Il n'y a eu que du mépris. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'au fil des manifestations, il y a une forme d'exaspération d'avoir été méprisé comme ça. J'ai alerté à plusieurs reprises les services de l'État en disant « Faites attention parce que là, les gens commencent à être en colère. » En colère parce que on nous dit qu'on fuit la dictature. Alors la dictature, c'est peut-être « Ferme ta gueule », mais là, en l'occurrence, la démocratie, c'est « Cause toujours ». Donc de toute façon, on n'avance pas beaucoup plus. On est toujours dans le non-dialogue. Donc, effectivement, moi, j'ai entendu à plusieurs reprises des gens me dire « Nous, de toute façon, on ne laissera pas faire, on a joué notre vie. » Moi, je me bats, enfin, j'ai été élu maire, donc jeune élu, c'est une aventure, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, voilà, qui vient de nulle part, mais je suis originaire d'un village où on a grandi ensemble, on a créé des amitiés, c'est une communauté aussi, hein, en quelque sorte, et on a compris qu'on arriverait à avancer que si on pouvait reposer les uns sur les autres. Et dans ce combat-là, moi, j'ai plein d'amis d'enfance, hein, qui ont eu leur projet de vie, hein, de construire sur la commune. Alors, forcément, ils ont encore là des échéances à payer. Ils vont y mettre 40 ans de labeur, y élever leurs enfants, leur famille, et se disent, nous, demain, si cette usine s'installe, on a tout perdu. Alors là, moi, je suis convaincu d'une chose, et je le suis à titre personnel également, c'est que le jour où on m'aura tout pris, j'aurai plus rien à perdre. Donc, à partir de là, ça sera la guerre totale. Ça sera une question de vie ou de mort. J'ai été l'objet de menaces de mort à l'époque de l'enquête publique et finalement le coupable a été identifié. Puis on m'a dit, vous comprendrez, monsieur le maire, c'est une personne âgée et il n'a pas de casier judiciaire, donc on va le condamner à 2 journées de stage de citoyenneté. Je dis, bon, très bien. J'étais pas plus affolé que ça. Bon, on devait venir me trancher la gorge au moment de l'attentat contre Samuel Paty. Bon, pour ceux qui sont déjà venus chez moi, c'est un entonnoir. Donc, la lettre anonyme, elle est arrivée avec un timbre à la mairie. Elle n'a pas été déposée chez moi. Bon, déjà là, j'étais pas trop inquiet. Bon, Dominique, t'es déjà venu chez moi. Tu sais qu'on n'est pas, du style à être vite inquiété. Bon, moi, je m'attendais quand même, parce qu'il y a eu des actions sur des élus qu'on peut pas cautionner non plus. Hein. La violence n'est pas toujours, forcément, c'est pas la solution qu'on privilégie au départ. Donc, je me suis dit, finalement, ce discours-là, je vais me l'appliquer à moi-même. C'est-à-dire que si demain, l'usine arrivait et que je perdais tout, donc je peux, moi aussi, librement laisser parler ma violence dans la mesure où, j'ai pas de casier judiciaire puisque je viens d'être acquitté. Puis pour ceux qui sont dans l'assemblée, là vous regarderez, là vous voyez, je suis couleur sel et poivre, donc je suis vieux. Donc j'ai aussi les critères moi pour en sortir avec un rappel à la loi, on va dire. Voilà, ouais. C'est ça. Mais par contre, voilà, il y a des actions, il y a des actions à mener parce que tous les moyens sont déployés. Je me rappelle d'une manifestation en décembre l'année dernière sous une pluie battante. Hein, on était 180 ou 190 vaillants. Hein. Alors comme c'est un combat qui intéresse, c'était relayé par des journalistes au national, des réalisateurs de films et ainsi de suite. Quand j'ai vu les moyens déployés, alors qu'on me dit qu'il n'y a pas de moyens pour la gendarmerie, que les gendarmes se plaignent d'avoir des voitures avec un kilométrage infini, qui font des permanences dans ma mairie parce que dans leurs locaux il fait froid, qu'il n'y a pas de chauffage, Ben, je me dis, bordel, enfin, excuse-moi, mais je suis un peu en colère là. Il y avait, on va dire, une quinzaine de véhicules un samedi avec 4 gendarmes par véhicule. Pour faire quoi ? Ben, je sais pas, à part pour nous compter. Il n'y a pas eu, d'exaction, tout s'est passé tranquillement. Donc on se dit là, pour un industriel qui n'est encore pas au début du commencement de la construction de quoi que ce soit, déployer autant de forces de gendarmerie, moi je trouve qu'il y a encore pas mal de moyens. Quoi. C'est-à-dire que les moyens, c'est les mettre là où ça arrange. Je suis passé aussi sur la zone hier soir, pas plus tard qu'hier soir, et finalement je me rends compte qu'il y a de l'éclairage. Donc jour et nuit pour éclairer une friche, donc des lapins et puis des oiseaux, uniquement sur ce fameux terrain-là. Alors qu'un peu plus loin, il y a réellement des industries qui fonctionnent, il y a des transporteurs, parce que je suis pas contre l'emploi. J'ai accueilli une entreprise de transport qui a généré 80 emplois sur 2 hectares. Et ben eux sont dans le noir. Alors là aussi, il faut chercher l'erreur. Mais la raison, j'ignore. Mais je cherche de la logique, voilà. Alors je suis assez cartésien. Et là, franchement, j'ai eu du mal à m'endormir hier soir pour chercher une forme de logique dans tout ça.
Bon, alors vous comprenez que c'est un argument supplémentaire pour gagner cette lutte. On veut absolument pas. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord ici que Arnaud, il est un casier judiciaire comporte des trucs pas sympas, quoi. Voilà. Enfin, on préfère que tu aies un casier judiciaire.
Non, mais ça
donc on va gagner cette lutte. Et si c'est pas pour les enfoirés qui veulent nous empoisonner, ça sera pour toi.
Moi maintenant, j'ai une devise. Si la violence ne résout rien, je frappe plus fort.
Ouais, mais bon,
violence morale, j'entends. Je dis pas la violence physique, mais de la violence dans les propos, dans les actions, et puis dans la détermination, quoi. Il faut une volonté de faire, et puis parce que face à nous, on a quand même des gens qui sont en costume, qui sont là censés représenter l'ordre établi, la bien-pensance. Moi, j'ai vu quand même à travers ça des méthodes de voyous. Des méthodes d'intimidation, de conseils avisés pour mon bien, des tentatives de déstabilisation psychologique. Et ça, c'est le genre de truc, en fait. Moi, je suis un peu têtu, je suis comme l'ours. Je suis gentil, mais il ne faut pas venir me manger dans mon pot de miel, quoi.
Ah, encore une éducation judo-chrétienne de ratée.
Ah, bah écoute...
Normalement, tu devrais tendre l'autre joue.
Ah ouais, non, mais moi, il y a longtemps que j'ai compris que ça c'était pas forcément... Enfin, ça, on me dit de le faire, mais ceux qui me disent de le faire ne sont pas forcément ceux qui le font. Donc, pour reprocher, il faut être irréprochable, on est d'accord. Donc, face à des gens qui sont sur une sorte de violence administrative ou de violence psychologique, moi, je pense que après, on est dans un combat où toute forme de défense, même si c'est la technique de la terre brûlée, on arrive après, tous les coups sont permis. Donc, ayant tout perdu, on ne me prendra pas ce que j'ai plus, puisque c'est l'usine qui va me le prendre. Bon, donc voilà.
On va garder pessimiste pour des temps meilleurs. Mais je pense que c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre par les temps qui courent. De toute façon, cette lutte, on va la gagner.
Oui.
Donc tu ne seras pas réduit à des extrémités de violence. Non. Mis à part ça, je pense que la violence, c'est toujours la plus mauvaise des solutions.
C'est l'ultime recours.
Bon, après, il y a la différence entre les gens qui attaquent, les gens qui sont agressifs et les gens qui résistent. Je veux dire, on n'a pas forcément le choix des fois.
Il faut jouer avec les armes de ses adversaires.
Voilà. Mais bon, voilà. Bon, des fois, les non-violents intégristes diront que non, qu'il y a d'autres solutions. Donc moi personnellement, je suis pour que on puisse mener les luttes le plus longtemps possible et tant qu'à faire jusqu'au bout, sans qu'il y ait une effusion de sang,
une confrontation physique.
Voilà. Je pense que c'est argument contre argument. Après, il faut pas être en fond de cœur. Le capitalisme, le moteur, c'est le profit. C'est pas la satisfaction des besoins des gens. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, les intérêts des patrons ne sont pas forcément les intérêts des habitants, déjà que c'est même pas c'est pas les intérêts des gens qui bossent pour eux non plus, donc
c'est quand même un groupe qui suscite beaucoup d'opposition, parce que on est en contact avec des Américains en Virginie Occidentale, où Rockwool a installé une usine à Jefferson. Donc là, il y a un film documentaire qui est en cours de réalisation. la problématique est la même. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur l'Europe, l'Europe, c'est vraiment l'exemple concret. Alors bon, je me suis présenté tout à l'heure, vous avez vu mon nom, hein, c'est le bruit d'une fermeture éclair quand elle coince, hein. Il y a une voyelle pour cinq consonnes, donc je suis originaire d'Europe centrale, et donc ces pays-là, on les a inclus tardivement dans l'Europe, et même quand m'entretiens avec ma famille, bon, il y en a en Allemagne, il y en a en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne, enfin voilà, c'est assez hétéroclite. Mais finalement, quand on discute entre nous, on la veut tous, l'Europe. On veut l'Europe des citoyens. Et ce qu'on nous a présenté quand on s'est opposé, ce que les citoyens ont refusé, ben c'est l'Europe de la finance. Voilà. Nous, pour eux, c'était la liberté de voyager, que la famille qui était éclatée, qui ne pouvait plus se rencontrer parce qu'il y avait des barrières, c'était très compliqué, qu'on puisse circuler. La problématique, jouant des pommes de terre dans les quartiers difficiles du 93, on m'avait décrit ça, comme tu disais tout à l'heure, divisé pour mieux régner, on m'avait dit attention, c'est des sauvageons, tu vas te faire attaquer, ils vont te voler la caisse et tout ça. Moi, j'ai rencontré que des gens bienveillants. On s'est trompé en rendant la monnaie, des gens ont fait des fois 10 km pour venir nous dire, vous nous avez donné 10 euros de trop. C'est des pères et des mères de famille qui n'aspirent qu'à une chose. C'est au bien-être, à élever leurs enfants dans la dignité et à faire des et à en faire des gens bien. Personne ne peut se complaire dans la violence au quotidien, dans l'agression, dans tout ça. Donc là encore une fois, nous vu sous le prisme de la province et puis on va dire des grands médias qui vendent de la peur, ben, le constat sur le terrain, il n'était pas le même. Et l'histoire de l'Europe, c'est la même. C'est-à-dire que tous ici dans l'Assemblée, je suis sûr qu'on la veut, cette Europe, pouvoir aller échanger avec un Portugais, un Grec, un Islandais ou un Polonais, sans venir dire, bah finalement, toi le Grec, c'est à cause de toi, c'est à cause de ton déficit que l'Europe va pas bien, alors que nous,
on pourrait peut-être aller un peu plus loin et puis étendre ça à la planète entière.
Voilà. On va déjà faire l'Europe dans un premier temps, mais au-delà aussi.
L'heure tourne, et peut-être qu'il y a quelques personnes de cette nombreuse assemblée, genre, les gens du fond, là-bas, s'il vous plaît.
Ceux qui sont restés debout, dans le fond, là.
Peut-être qu'il y a quelques questions. Il y a un micro, vas-y.
Je pense que cette intervention montre l'importance que les luttes locales peuvent avoir. Et parce que souvent, les médias s'intéressent aux grandes choses, etc. Enfin, grandes, c'est ce qu'ils disent. Et puis après, on passe à autre chose. Et pour avoir bien suivi, par exemple, les luttes par rapport à les déchets atomiques, il y a eu des luttes pendant des dizaines d'années. Et ce qui était important, c'est que... Enfin, c'est important déjà pour les gens qui luttent, ça a été dit. Parce que ça change quelque chose, déjà, de lutter collectivement. Mais en plus, ça a permis de résister pendant très très longtemps. Et le mot d'ordre, c'était pas ici, ni ailleurs.
Ah, mais exactement.
Et c'est là que ça élargit. Et justement, vous avez parlé des perturbateurs endocriniens, de l'amiante. C'est toutes ces choses-là qui donnent des maladies aux gens, soit qui travaillent, soit qui habitent à côté. Et il y a tout un travail d'information à faire, parce que ce n'est pas quelque chose qui déclare tout de suite, c'est quelque chose qui déclare longtemps. Moi, j'ai connu un copain, son père est mort de l'amiante, alors qu'il était en retraite.
Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est ça, moi, le constat, c'est que je me rends compte que finalement, pour les gens, tout ce qui est invisible n'existe pas. Et c'est ça qui est dommage. Alors, on va voir la... On a les perturbateurs endocriniens, on a les composés organovolatiles. Bon, les preuves sont accablantes, hein. C'est des produits qui provoquent des cancers des voies aérodigestives. Mais c'est invisible. C'est comme la radioactivité, c'est comme ces déchets nucléaires. En fait, on ne le voit pas. Et c'est pour ça qu'à l'époque, à Tchernobyl, les liquidateurs, on leur a dit, voilà, vous mettez un bleu en coton, vous mettez un masque devant le nez, et puis vous pouvez aller toucher des déchets radioactifs. Bon, ils ont eu 8 jours d'espérance de vie. Mais ce qu'on a du mal à faire comprendre aux gens, c'est il peut y avoir des nuisances pour sa santé alors que c'est invisible. Voilà, c'est ce message-là qui est difficile à faire passer.
Il faut un micro parce que c'est enregistré.
Même titre que là, il a fallu qu'on leur délivre un permis provisoire. Donc, pour les gens, le fait de les voir installer une clôture, c'est un élément de communication et puis un peu de terrassement, disait, bah, ça ne sert plus à rien de se mobiliser. Ils ont un permis provisoire. L'usine va se faire. Alors, en plus, je suis désolé, hein, vous n'allez pas me taper dessus, mais le français est pessimiste. C'est-à-dire que ça y est, c'est commencé, donc on n'y va plus. Mais je dis au contraire, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser pour pas que ça aille plus loin. Et puis finalement, là, on va organiser une manifestation la semaine prochaine, et puis il y a beaucoup de gens qui connaissent la décision de justice qui disent « Mais non, mais vous avez gagné en cour d'appel, donc ils n'auront pas le permis, donc ils viendront pas. » Ben non, malheureusement, bougez-vous le cul, bougez-vous le derrière, donnez 2 heures de votre temps, parce qu'il n'y a rien de gagné. Comme vous le disiez à juste titre, on est dans un marathon, c'est un combat qui va durer, moi c'est 2020, hein, c'est 4 ans. Ouais. Moi je me fatigue aussi, hein, je prends 2 ans tous les ans, c'est, voilà, c'est fatigant d'être en lutte. Mais il faut qu'on tienne dans la durée, il faut s'économiser, et il faut rester mobilisé, il faut montrer qu'on occupe toujours le terrain. Voilà, ils ont encore, eux, des bâtiments qui devraient, que je devrais faire évacuer, parce que tellement arrogants, ils étaient persuadés que la cour d'appel, c'était une formalité, une fioriture. Bing, on gagne. Donc, ils ont fait une clôture qui, aujourd'hui, est illégale. Ils ont installé leur bâtiment à grand coup de communication en disant, ça y est, on occupe la place. Et ben là, il va falloir leur dire du vent. Vous avez joué, vous avez perdu, vous devez partir. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais pour ça, pour que je sois légitime, ben, il faut que la semaine prochaine, on soit nombreux en disant, voilà, nous, on n'est pas démotivés, on est encore là et on doit y aller. On fait le taf, on est des vaillants, on se compte et on est présent. Voilà, c'est ça l'esprit. Mmh. Et après, je leur ferai démonter, je serai légitime.
Mmh. Oui, oui, je disais, puisque c'est invisible, c'est de la pollution propre.
C'est ça. Ouais. Ah ben, alors attendez, je vais rebondir parce que on nous dit principalement de cette cheminée-là, il va sortir de la vapeur d'eau, voilà, je cherchais le mot. Bon, il y a 820 tonnes quand même annuelles, ouais. Donc il y a 365 jours, ça fait quasiment, enfin c'est plus de 2 tonnes par jour. Bon, moi ok. Alors, je disais tout à l'heure, je suis un paysan, je suis pas allé beaucoup à l'école, mais j'ai fait un petit peu de chimie quand même, parce que j'ai fait un bac de maths. Quand on vient vous dire qu'il va sortir de la vapeur d'eau, la molécule d'une vapeur d'eau, c'est H2O. On retire l'atome d'hydrogène, on est à mi-chemin à nous dire que ces cheminées-là vont sortir de l'oxygène. C'est d'une malhonnêteté intellectuelle sans nom. Et après, on vous parle, mais non, mais la pollution, elle va, il y a dispersion. Mais en aucun cas, dispersion veut dire disparition. Et ils n'ont pas le pouvoir d'envoyer ça dans la stratosphère. Donc ça va bien demeurer là. Voilà, tout ça, c'est essayer de manipuler, c'est de la manipulation de masse. Hein. Alors là, je pense que toi, Dominique, il y a des exemples comme ça, t'en as à l'appel, de la manipulation intellectuelle pour faire avaler n'importe quel type de couleur. Le problème, c'est qu'en fait, on a été à l'école. On a été à l'école, on a appris, c'était gratuit, on en a profité, et on est tous pas cons. On est peut-être la dernière génération qui avons bénéficié là, d'un enseignement, on va dire, objectif. C'est compliqué. Enfin, alors, tout le monde n'est pas d'accord, mais en fait, on met nos connaissances en application. On a écouté ce qu'on nous a dit et on ne peut plus nous faire avaler n'importe quoi par rapport à des gens, on va dire, il y a. Et ce n'est pas anodin qu'ils soient installés ici. Où est-ce qu'ils s'installent ? Dans le Massif central où il y avait des mines et à Soissons qui était une ville industrielle. Parce qu'on a une résilience par rapport à la population. Il y a un taux d'illettrisme quand même assez conséquent dans l'Aisne. Donc on va s'installer là où les gens, d'une, ne sont pas habitués à lutter. Hein, on ne va pas dans le sud-ouest, on ne va pas dans les zones de montagne. Donc, enfin, moins. Je fais du général, hein, je ne fais pas du cas par cas. Donc on vient là, ben on va s'installer chez les ignares, on va leur faire avaler n'importe quoi, puis de toute façon ils ont déjà eu de la pollution, habitués à la misère, ils n'y pensent plus. Voilà le dessin cynique de ces gens-là. Et rien n'est laissé au hasard. Et ben moi je suis désolé, moi j'ai un beau village, on est à 1 heure de Paris, on peut créer des emplois. On parlait tout à l'heure des matériaux alternatifs, on a notamment par exemple des panneaux à base de bois. Les forêts, moi je suis venu en venant là, les forêts privées elles sont dans un état déplorable. On a encore au sol, je pense, des arbres de la tempête de 99. C'est du renouvelable, c'est du stock de carbone. Le bois c'est du stock de carbone. Donc si on le met dans de l'isolation, eh ben, en fait on va stocker du carbone et à la place il va repousser un autre arbre. Donc les solutions elles existent, les emplois qu'on va pouvoir développer sont nombreux. Donc allez, on fonce, on y croit, soyons ambitieux.
Alors, une parole au fond, peut-être, Thomas ?
Oui. Moi, je trouve que c'est plutôt formidable, cette lutte, dans le sens où ça fait se croiser des personnes qui, sinon, se croiseraient jamais, quoi.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Enfin, j'étais pas là au tout début, désolé. Ouais. Et la vision que j'en ai, c'est vraiment qu'il y a tout un panel, du coup, d'idées qui se confrontent, qui sont pas forcément, qui sont parfois complètement en opposition, mais qui finalement là-bas, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont créé un point de tension qui rassemble tout le monde et du coup tout le monde leur tombe dessus et en fait ils recréent de la solidarité finalement. Donc moi je les remercie d'un côté, je les remercie grandement parce que on serait jamais
d'avoir renoué le dialogue entre des gens qui ne se parlaient plus.
On serait peut-être jamais parlé, voilà, ça fédère. On voit des gens, on va dire, en noir sont à côté des élus, par exemple. C'est des choses qui habituellement on n'a pas coutume de les voir, quoi. Et du coup, ça, en fait, ils dynamisent le territoire, mais d'une autre façon. Ah, voilà. C'était peut-être pas attendu, mais c'est vrai qu'ils dynamisent le territoire. Et franchement, on peut les en remercier. Après, moi, je pense qu'une fois qu'ils ont réussi à faire ça, ils peuvent repartir.
Mais, voilà. Mais j'aime bien ta vision des choses, parce que je suis un peu comme toi. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein.
Voilà. Bon, alors, moi, je suis désolé, mais nous avons un programme. Et qui se termine normalement à 45, il est 44. Donc, on va.
Est-ce qu'il y a une dernière question?
Ouais, est-ce qu'il y a une dernière question? Et puis, voilà.
Une question.
Là-bas.
Voilà.
Non, non, attends, il faut... Oui.
Allez-y. Parce...
Sinon, on a la réponse, on n'a pas la question.
Allez, dites-moi, est-ce qu'à Saint-Éloi-les-Mines...
Il y a eu beaucoup de morts par cette pollution.
Alors, je réponds à la question. En fait, il n'y a pas de statistiques. Il n'y a pas de statistiques sur les cancers industriels. Bon, par contre, moi, les habitants m'ont dit, monsieur le maire, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Vous vous rendez dans le cimetière de Saint-Éloi, vous regardez les dates de naissance et les dates de décès, et vous verrez que l'espérance de vie est quand même moins élevée que la moyenne nationale. Alors, tout ça, c'est un petit peu faussé. Alors, voilà, je fais pas de langue de bois, hein. Je dis vraiment, je suis factuel, pas de parti pris. Ils ont eu, eux aussi, avant l'arrivée de Rocoul, une usine d'amiante. Donc, si vous voulez, les causes étant multiples, oui. Ce serait malhonnête et vicieux de ma part, et peut-être même diffamatoire, de dire que la baisse de l'espérance de vie est liée uniquement à Rocoul. Mais, effectivement, à Saint-Éloi-les-Mines, vous avez les gens qui travaillent qui disent que c'est le paradis sur Terre, et les gens qui n'y travaillent pas qui vous disent c'est l'enfer sur Terre. C'est-à-dire que quand il fait 40 degrés, on a des photos, nous, édifiantes, hein, d'opposants. Oui. En fait, si vous voulez, quand la pression atmosphérique est basse, donc la fumée est horizontale, donc elle stagne dans cette cuvette-là.
Parce que le village est vraiment près de l'usine Rocoul.
L'usine est en centre-ville.
Ah,
vous connaissez?
Bah oui, je connais assez.
Voilà. Voilà.
Avant, quand il y avait les mines, il y avait plus de 6000 personnes. Maintenant, ils doivent être à 3000 et quelques.
Chez Rocoul?
Non, Saint-Éloi.
Ah, Saint-Éloi, la population était divisée par deux. Alors, moi, ça m'a valu justement un procès en correctionnel pour diffamation, parce que j'ai cité l'INSEE. Effectivement, oui. Avant l'arrivée de Rocoul, il y avait 7000 habitants. Aujourd'hui, il y en a 3600.
Ah, oui.
Donc, ça n'a pas amené la prospérité. Et je ne sais plus donc, sur quoi je voulais rebondir. Ouais, en fait... les commerces sont fermés, et puis bon, il y a des dépôts blancs, oui. Des dépôts jaunâtres, les tickets, les jetons pour aller laver les voitures sont en libre service à l'accueil. Il y a toujours quelqu'un avec un balai dans la cour.
Ah, oui.
Moi, je suis allé là-bas, je sais pas si je peux reprendre cette image-là. Quand on avait fait une visite guidée là-bas sur un week-end, j'ai eu l'impression de visiter Moscou dans les années 80, hein, si vous voulez. On avait deux encadrants par participant. Non, mais je suis revenu de là-bas, fatigué.
Et logé à 30 km.
Comment ?
Logé à 30 km.
Ah oui, voilà. Et alors, si vous voulez, il y a une technique d'industriel. Pour éviter les mouvements sociaux, vous faites quoi ? Vous allez recruter 50 agents à 30 km, 20 agents à 10 km dans une autre ville, de façon à ce que les gens ne se connaissent pas les uns les autres. Donc, à partir de là, comme ils n'échangent pas entre eux, il y a peu de chances pour qu'il y ait un mouvement social.
Oui.
Voilà. Divisé pour mieux régner, encore là.
Mmh.
Voilà. C'est ce que moi, j'ai vu, j'y suis allé. Hein, ça.
Oui.
Et je vous dis, mes propos, je peux les assumer, puisque j'en ai été acquitté en correctionnel, blanchi.
Elle est ouverte depuis quelle
1980.
Année ? Ah oui, ça fait déjà voilà.
Donc,
44
ans. Il y avait 5 lignes, je crois, de mémoire. Il devait y en avoir 3 au charbon. Et puis deux électriques. Alors on a un politique soissonné qui dit ça va aller, nous ce sera pas des fours à la coque. Alors la coque, je pense qu'il l'avait sniffé, c'était au coque, c'est le coque, c'est le charbon. Voilà, ouais, c'est ça. Mais ça c'était une petite remarque amusée,
oui,
histoire de détendre l'atmosphère.
Voilà,
puis ça fait du bien un dimanche matin.
Ouais, et puis pour clore une rencontre, il vaut mieux
terminer sur une bonne note.
Voilà, une bonne note. Et puis en tout cas, mon Arnaud, on te remercie d'avoir accepté de venir participer à une émission sur Radio Libertaire.
Mais donc, c'était un bonheur.
C'est retransmis sur la Terre entière, puisque bon, on a le net maintenant qui nous permet de ne plus nous cantonner uniquement sur Paris ou la région parisienne. Voilà,
c'est un bonheur, c'est un terme bonheur pour
la
moi
technique,
aussi.
Voilà. Et bon, donc on va gagner. Et en attendant, on se prépare pour occuper le terrain et faire de l'éducation populaire, quoi.
Voilà, pour l'instant, on va occuper le terrain médiatique et puis après, on va occuper le terrain. Occuper le terrain.
Sinon, on avait une déchetterie.
Oui.
C'est ça. Ah. Et il y a une décharge. Et il y a énormément de gens qui ont eu des cancers et tout ça.
Ah, mais bien sûr. Alors, le problème, c'est que le meilleur... Le meilleur moyen de ne pas trouver, c'est de ne pas chercher. Hein, on est d'accord ? Voilà, c'est ça.
En tout cas, on se dit tous à samedi.
À samedi, oui, à samedi.
Vous pouvez terminer sur ça. Donc, voilà.
Il faut qu'on soit
venez nombreux.
Il faut qu'on soit nombreux voilà. Samedi. Voilà.
Voilà.
Voilà, merci.
Ben un grand merci à vous.
On va passer
merci pour cette tribune.
Une petite une intermède et avant de se retrouver pour le prochain débat qui sera sur le conflit israélo-palestinien avec Jean-Louis Mohand-Paul. Alors vous voilà, on verra ce qu'on est capable de débattre sur un sujet aussi chaud que celui-là. Merci Arnaud. Et
merci, bon, voilà. Merci à Dominique. Merci pour cette tribune.
Merci. Bon.
Bonjour, je m'appelle La Terre. Entrez, vous êtes ici chez vous. Pour ma santé, faut pas s'en faire. Je suis en observation, c'est tout. Et je tourne autour du sommeil, couché sur l'étoile de mon lit. Un médecin sans frontières surveille ma température jour et nuit. Je souffre de l'Afrique gastrique, à chaque repas entre œsophages, les luttes intestines me ravagent, le gros colon fait du trafic, au cœur de l'Amérique, l'anémique, les rouges haïssent les globules blancs, de chaque côté du Pacifique et moi, je me fais du mauvais sang. C'est grave, docteur. J'ai mal à la terre, bizarre, cette odeur d'éther, ça tourne par an, je crois que je fais de la tension. Une douleur me transperce l'épaule, les os sud en polynébrite. On m'a fait péter un atoll. Je sens plus rien, docteur, faites vite. Et je respire pas bien près des côtes. Malaise ou de l'asthme de Panama. Je transpire, j'étouffe, je suffoque. Je crois que c'est le régime qui me convient pas. C'est grave, docteur, j'ai mal à la terre. Bizarre, cette odeur d'éther. Près du poumon, j'ai comme de l'oppression. Je voudrais retomber en enfance, au pays des petits bobos, des maladies sans conséquences, qui portent des noms d'oiseaux. Écouter chanter les rougeoles, regarder passer les oreillons, voir les varicelles qui s'envolent et reviennent selon la saison. C'est grave, docteur, j'ai mal à la terre. Je suis devenu un continent, j'ai ruiné mon troisième océan. Tropique du cancer, je trouve plus jolie la pleurésie. Dans le crachin du bord de la mer, j'attendrai sagement l'embellie. C'est grave, docteur, j'ai mal à la terre. Bizarre, cette odeur d'éther. Ça tourne par rond, un peu d'affection. C'est grave, docteur, j'ai mal à la terre. Cette odeur d'éther, ça tourne par rond, ça tourne par rond, ça tourne par rond. C'est grave, docteur, j'ai mal à la terre. Bizarre, cette odeur d'éther, ça tourne par rond, un peu d'affection. des ronds comme un dollar sur des galaxies par million. Il faut avouer qu'on est vénard de vivre au soleil du pognon. On se dort sous les rayons comme un article en magasin. On se jette au fil des saisons, on se vend au gré des besoins. Le monde est beau comme un désert, les pauvres sur le sable fin. C'est le luxe de la misère et des pays qui meurent de faim. On a le nez vers la lumière, ébloui par tant de bonheur. On en oublierait la manière dont les crémiers ont fait leur beurre. Le monde est gai comme un pinson, une clé d'or à la portée. Il s'écrit partout des chansons, c'est le monde des variétés. Danse et chante partout la joie, c'est un spectacle permanent. Il importera toutefois que la caméra ait du talent. Nos princes héritiers de Midas ont modernisé la pratique qui consiste, c'est dégueulasse, à transformer les larmes en fric. Et baignant dans cet océan d'une incomparable richesse, nous invite à en faire autant, c'est bien là que le bas nous blesse. Si vous croyez qu'on est content avec ce que vous proposez, c'est que vous ne sortez pas souvent de vos milieux, de vos quartiers. Si vous croyez qu'on est heureux avec ce que vous promettez, vous vous mettez le doigt dans les yeux, un peu plus loin que vous pensez.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Eh bien, après le premier débat de la matinée en direct du Salon du Livre anarchiste de Merlieu, nous avons écouté tout d'abord Xavier Lacouture, Mal à la Terre, et ensuite Le Monde est rond, les chanteurs livreurs. On a encore un petit peu de temps avant le prochain débat. Donc, encore un petit peu de musique.
Se plaise sur cette piste de danse qui nous met si mal à l'aise. Faudrait-il vraiment qu'on laisse la place à ceux qui voudraient qu'on traverse le monde en se bandant les yeux? Ils dénigrent notre musique, notre art, nos discours, se moquent de nos rêves, nos cultures, mais la roue tourne. Au début ils t'ignorent, ensuite ils te raillent. Un jour ils te combattent, un autre jour tu gagnes. Oh, oh, oh. Qu'on les
laisse faire, vu qu'au fond c'est pareil, vu qu'il n'y a plus rien à faire. Voudrait-il qu'on oublie, voudrait-il qu'on soit complice, quand chaque jour des gens tombent à cause de leur course au bénéfice. Regarde les bannis au bord du chemin, trop faibles, trop petits, trop purs, trop africains. Ils n'ont pas pris leur place dans notre grosse voiture. Ce soir ils dormiront à côté de la belle sahortue. Oh, oh, oh. T'as pas compris, faut que tu sois prêt à tuer ton frère. Si tu veux réussir, c'est la règle, c'est la loi, c'est la jungle, c'est comme ça. Si tu penses autrement, t'es fou, t'es dingue, t'es hors de là. Pauvres rêveurs marginaux, voilà ce que nous sommes quand on leur parle d'une nouvelle règle, d'une nouvelle donne. Au début, ils t'ignorent, ensuite ils te raillent. Un jour, ils te combattent et ce jour-là, déjà, tu gagnes.